Bon, très bien. Alors, comment ça va se passer ? Chacun, on va faire une intervention d'une dizaine de minutes. La base de la réunion, c'est les deux papiers que nous avons produits. Donc, La Fabrique écologique, qui est un papier qui s'appelle « Quelles leçons de l'actuel recul écologique ?», qui figure sur le site, etc. Vous pouvez éventuellement le parcourir ou le lire après, etc., comme vous voudrez, si vous ne l'avez pas encore lu. Il y a un papier de l'IDRI, qui va être présenté aussi, qui est pour un pivot majoritaire de l'écologie, et qui lui aussi, je parle pas du mien, mais je parle du tien, est assez passionnant. Et donc, et curieusement, c'est pour ça que ça nous a paru très intéressant de mener cette conférence, qui est des papiers qui, avec des angles de départ extrêmement différents, des méthodes extrêmement, enfin des points de départ extrêmement différents, sont finalement assez convergents sur un certain nombre de choses. Ensuite interviendra Clara Saint-Nicolo du Réaction Action Climat, donc Marion Bette de l'IDRI, hein. Ensuite Clara Saint-Nicolo de l'Action Climat pour faire un commentaire, et puis ensuite nous aurons nos deux politiques qui nous diront à quel point nous nous trompons, à quel point tout ça est débile, et qui nous donneront la ligne à suivre, en tout cas pour l'avenir. Voilà ce que je vous propose. Voilà ce que je vous propose en quelques mots, et on essaiera de tenir à peu près les 10 minutes pour laisser donc une heure de questions, de débats. Ce que l'on pense que c'est évidemment le plus intéressant, c'est d'un dialogue avec vous sur ces différents sujets qui sont évidemment des sujets cruciaux. Alors, je présente moi très rapidement quelle est la logique de notre réflexion à La Fabrique écologique et de la mienne en particulier. Qu'est-ce qui me paraît important dans cette situation de recul écologique que personne ne conteste, en tout cas sur les caractéristiques de fait que toute une série de mesures sont en recul. La première chose qui me paraît importante, c'est d'abord de bien comprendre et de bien analyser ce qui se passe. Et je suis assez frappé de voir qu'on continue à avoir un certain nombre de gens, y compris dans des articles récents, qui disent que finalement le recul écologique c'est un problème simplement parce que l'extrême droite ou la droite ont repris ce thème et veulent dézinguer toutes les mesures écologiques, mais qu'il n'y a pas de réalité dans la population en matière d'écologie, que ça ne reflète pas des réalités. Je pense que c'est une grave erreur, et c'est ce genre de grave erreur qui aboutit à ce qu'on en reste à des schémas du passé et qu'on n'arrive pas ensuite à se faire comprendre par une partie de notre population à l'avenir. Pourquoi c'est une grave erreur ? Parce que autant je suis très convaincu que l'ensemble de la population, très largement, est d'accord sur l'idée, et tous les sondages le montrent, est d'accord sur l'idée qu'il faut continuer à avancer très fortement, le plus rapidement possible, sur la transition écologique, autant il me paraît assez clair que sur les solutions écologiques, et on pourrait les décliner les unes après les autres, peut-être qu'on aura l'occasion d'en citer quelques-unes évidemment, sur les solutions écologiques, il y a une contestation assez forte de la population qui se fait jour, et qu'il faut essayer de caractériser pour bien la comprendre et bien l'analyser. Cette contestation, et je pense que c'est un élément important du paysage, elle est évidemment beaucoup plus nationale et globale que locale. Évidemment, Bruno nous en parlera. Sur le plan local, à partir du moment où les contreparties d'une politique écologique sont très souvent des avancées en matière d'amélioration du cadre de vie, etc., la problématique est souvent assez différente, me semble-t-il, de cette logique de difficulté écologique. Alors d'où vient ce sentiment de la population ? Il vient très rapidement de trois choses. La première chose, c'est le sentiment d'éloignement extrêmement fort sur un certain nombre de solutions, éloignement qui fait que des solutions par rapport à la réalité du terrain sont parfois inadaptées et tout à fait ne sont pas adaptées à la situation réelle des gens. Le deuxième élément, c'est le sentiment d'injustice que nous connaissons bien, c'est-à-dire très concrètement, toute une série de gens considèrent que pourquoi ils auraient à faire des efforts eux, pourquoi ils auraient à changer, alors que d'autres, en particulier les plus riches, ne changent pas. Et le troisième élément, c'est le sentiment que, de toute façon, l'action climatique ou l'action écologique ne va pas assez vite, et que, après tout, c'est pas si grave que ça, et que il faudrait relativiser ce sujet par rapport aux exigences. Alors évidemment, ce sentiment est contrebalancé par les quelques catastrophes et les nombreuses catastrophes qui arrivent, mais comme on le dit souvent, tant que vous n'avez pas une catastrophe qui arrive chez vous, parfois vous avez tendance à sous-estimer, en réalité, la catastrophe et en tout cas la nécessité de faire des choses. À partir de là, il y a trois exigences fortes si on veut avancer sur les sujets de transition écologique. et de faire une avancée, évidemment, Marion nous en parlera, de faire une avancée sur une base majoritaire. Car j'ai le sentiment que, sur toute une série de sujets, il faut en effet sortir de peut-être de prise de position minoritaire pour avancer sur une base majoritaire. La première chose, c'est que je crois extrêmement important de partir de la vie quotidienne et de partir d'amélioration de la vie quotidienne pour parler ensuite climat et écologie. Trop souvent, les solutions sur le climat et l'écologie sont balancées telles quelles, au nom du climat ou au nom de l'écologie, alors qu'en réalité, elles doivent être des situations d'amélioration de la vie quotidienne, en particulier des plus défavorisés de nos concitoyens. Il est extrêmement important que ça soit démontré. Quels sont nos concitoyens qui sont les plus touchés? Et je pense que là aussi, il faut les caractériser. Nous, ce qu'on a appelé les prisonniers écologiques ou les prisonniers climatiques, c'est-à-dire ceux qui aimeraient beaucoup agir sur l'écologie, mais très concrètement ne le peuvent pas, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, par exemple, pour acheter de la nourriture biologique, soit parce qu'ils ont acheté une maison à 30 km du centre-ville et qu'ils sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions pour aller au centre et que donc ils ne peuvent pas, et qu'évidemment la voiture électrique est beaucoup trop chère pour eux, et donc qu'ils ne peuvent pas changer d'habitude, soit parce qu'ils habitent dans des passoires thermiques, et que pour des raisons simplement de montant de loyer, etc., ils ne peuvent pas déménager et aller dans un endroit qui soit un peu plus safe sur le plan énergétique. Tous ces gens-là sont dans des situations où ils aimeraient faire de l'écologie, mais ils ne le peuvent pas. Et je pense que ça entraîne une frustration extrêmement grande. Et donc, c'est la deuxième recommandation, deuxième élément que je voudrais signaler, c'est que si, en avançant une mesure de type écologique, on pourrait prendre l'exemple des ZFE, je ne prends pas d'exemple volontairement, parce que je serais trop long, ZFE, ZAN, plein de choses, hein. Si on ne prend pas en compte l'opinion de ces populations-là en particulier, qui sont les catégories modestes et une partie de la classe moyenne. Si on ne prend pas en compte la situation de ces gens-là, et avec un discours d'amélioration de la vie quotidienne, à ce moment-là, on a très peu de chances d'être entendu. Enfin, le troisième élément qui me paraît très important, y compris sur le plan philosophique et sociologique, c'est de travailler davantage sur le rapport à la nature. On voit bien à quel point, à partir du moment où il y a une sensibilité à la nature qui est concrète, une forêt à proximité, une sensibilité à la nature très forte, que ce soit en ville ou en zone rurale, à ce moment-là, il y a très certainement une évolution qui peut se faire jour sur un certain nombre de positions, sur cette idée que le rapport à la nature devient quand même tout à fait privilégié et qu'il ne faut pas en permanence juger que ça n'a pas d'importance ou peu d'importance. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que j'en discutais l'autre jour avec, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sur la restauration d'une lagune en Espagne, qui a maintenant la personnalité juridique en matière d'une lagune, qui donc a la personnalité juridique parce qu'il y a une mobilisation de la population et parce qu'il y a eu, y compris, des photos ou des situations de poissons morts, etc., qui ont énormément frappé les gens. Donc je crois que cette question de rapport à la nature, dans les deux sens d'ailleurs, dans le sens de prise de conscience des dégâts et dans le sens de sensibilité à la nature, est un outil pour l'avenir extrêmement important pour essayer de contrer ce recul écologique qu'il faut bien prendre dans toutes ses dimensions. Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à Marion.
Merci beaucoup, Géraud, pour cette introduction. Donc, je suis Marion Betch, je travaille à l'IDRI, qui est un think tank environnemental qui avait été fondé dans les années 2000 par Laurence Tubiana. Effectivement, on a beaucoup de messages proches avec la fabrique écologique. On avait mené une réflexion qui s'appelait « Pour un pivot majoritaire de l'écologie ». Et en fait, on s'était posé cette question, exactement la même, celle de la nécessité de l'analyse, parce qu'il y avait ce mot de backlash qui encombrait beaucoup le débat, qui attirait le débat. Et on se demandait, au fond, qu'est-ce que c'est que ce backlash? Est-ce qu'il y a vraiment un retournement de l'opinion française contre l'écologie, qui serait aussi à échelle européenne? Est-ce qu'il y a une désaffection soudaine? Et en fait, les sondages, les études, les enquêtes de l'ADEME sont là pour attester que quand même, il y a une préoccupation qui, en réalité, reste très haute hein, chez les Français pour l'environnement. Et puis même les chercheurs, les sociologues qui sont sur le terrain, par exemple, en ruralité, auprès des agriculteurs, voient bien que les agriculteurs sont aussi à l'avant-poste du changement climatique et qui sont très légitimement inquiets de ce qui va se passer. La question, ce n'est pas tellement celle d'un désintérêt pour la question écologique. C'est plutôt qu'il y a un certain nombre de stratégies qui n'ont pas été fructueuses, en fait. Et il y a aussi peut-être un premier élément qui est plus de l'ordre de la politisation de l'écologie, de l'histoire des mouvements sociaux. C'est vrai que d'abord, l'écologie, pour réussir sa mise à l'agenda dans les années 70 avec tous les mouvements des scientifiques, les alertes, etc., elle a eu une stratégie que nous, en reprenant un chercheur qui s'appelle Serge Moscovici, on appelle, elle a eu une stratégie minoritaire. Qu'est-ce que c'est une stratégie minoritaire ? C'est-à-dire qu'on adopte une forme de radicalité, on ne fait pas de concessions, on est sur le cœur de la cause écologique, et ça a été de fait extrêmement fructueux. Les mouvements environnementaux ont vraiment réussi à mettre à l'agenda la question écologique, si bien que dans les années peut-être... À la fin des années 2010, début 2020, il y avait ce que nous, on appelle une sorte de consensus mou sur l'écologie. C'était au programme, à peu près, d'un certain nombre de partis politiques. Et en fait, on est sorti de cette phase. Maintenant, il y a un abandon par un certain nombre de programmes de cette thématique. Il y a aussi le fait que, en fait, les partis... de droite et d'extrême droite ont organisé la riposte politique. Le sujet écologique est devenu important, présent dans le débat, donc l'opposition s'est organisée. Donc c'est aussi ça, le backlash. Le backlash, il est aussi, et peut-être même surtout, du côté des élites politiques qui essayent de déprioriser cette question parce qu'elle a pris trop d'importance. Et ensuite, là où je rejoins tout à fait le propos de Jérôme Guibert, c'est qu'il y a aussi ce fait qu'on a fait des mesures de transition qui ont été profondément injustes. En fait, si on se souvient des gilets jaunes, de la rancœur sociale qu'il y a eu à ce moment-là, il y a des liaisons entre justice sociale et écologie qui n'ont pas été faites à un moment où elles devaient l'être. Donc en fait, on a essayé de caractériser ce moment en se disant comment on sort de cette situation. Comment est-ce qu'on dépasse cette phase de stagnation de l'écologie ? Comment on relance un pivot majoritaire ? En fait, comment on crée une nouvelle coalition autour du climat et d'une façon qui soit juste, évidemment, et qui ne néglige pas les enjeux d'équité ? Alors, nous, on voit un peu deux sortes de pistes pour réorienter et un peu relancer la stratégie écologique. C'est que ça se joue à la fois dans les politiques publiques et aussi sur le cadre de la communication, disons. Pour les politiques publiques, c'est extrêmement important de faire des mesures qui s'intègrent à la justice sociale. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme on l'a fait, à faire des injonctions, à changer les comportements. C'est très culpabilisant pour les classes populaires et les classes moyennes qui n'ont pas les moyens de transformer leur mode de vie. Les modes de vie sont très contraignants et... Faire une injonction à adopter des mobilités vertes quand chez soi on n'a pas de transport en commun, quand on est complètement dépendant de la voiture, quand on n'a pas les moyens de s'offrir un véhicule électrique dont le premier et peut-être le moins cher est à 25 000 euros, en fait on ne crée que du rejet quand on produit des injonctions à adopter un mode de vie sobre alors qu'on n'en donne pas les capacités concrètes et matérielles à tous les groupes sociaux. Donc nous, on avait renversé un peu la phrase « quand on veut, on peut », on l'avait inversé en disant « quand on peut, on veut ». En fait, il faut équiper les territoires, équiper la ruralité, etc., en moyens de transport écologique, dans une alimentation durable. Il faut donner la possibilité au plus près des groupes sociaux et ne pas négliger que tout le monde n'a pas les mêmes capacités et tout le monde n'a pas les mêmes contraintes de mode de vie. Ces contraintes, elles ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi symboliques, elles sont culturelles, on n'a pas tous le même degré d'information, etc. Donc il faut réussir à jouer sur tous ces leviers. Donc ça, c'est les politiques publiques. Et la deuxième chose, un peu plus au bout de la chaîne, hein, plus sur le cadrage de la communication, c'est très important de relier la cause écologique à des enjeux sociaux majoritaires. En fait, de quoi ont peur les plus vulnérables aujourd'hui et les classes moyennes ? Du déclassement, de la perte d'emploi éventuellement qui va être générée par quelque chose comme l'intelligence artificielle, des enjeux de santé, des enjeux d'accès à tous à une alimentation saine, l'insécurisation sociale, la perte d'aide sociale, le chômage, enfin tout ça, ce sont des grandes causes sociales majoritaires qui inquiètent un certain nombre de groupes sociaux. Et il faut que la transition soit l'occasion d'adresser ces problèmes-là. Et donc, il ne faut pas présupposer que tout le monde va vouloir la transition pour la transition, mais il faut bien se rendre compte qu'il y a des inquiétudes sociales qui sont vraiment vivaces dans la société, et il faut que la transition soit l'occasion de les adresser, et donc Il faut travailler à ces jonctions entre problèmes sociaux et écologie.
Merci beaucoup, Clara.
Bonjour, Clara Sanicolo. Donc moi, je parle pour le réseau Action Climat. On est une fédération de 27 associations nationales et 10 associations locales qui œuvrent ensemble pour la promotion d'une transition écologique juste et contre les dérèglements climatiques. En me penchant sur le contenu de cette table ronde, la question que je me suis posée, moi, c'est effectivement cette question de l'acceptabilité entre un temps long qui nécessite un effort pour la transition écologique et un temps court où, au contraire, cette transition cristallise des oppositions et des questionnements de la part de la population. C'est une forme d'opposition entre temps long et temps court qu'on essaye de concilier déjà depuis un moment avec des slogans comme « fin du monde, fin du mois, même combat » que vous avez déjà dû entendre. Et donc pour essayer de dépasser cette contradiction entre temps long et temps court, quelques éléments de réflexion que je vous partage moi aussi. D'abord, ça a été déjà dit par les deux premiers intervenants. L'urgence d'agir contre le changement climatique, elle ne se dément pas. Et ça, c'est vrai, peu importe les années, peu importe les électorats, il y a quand même un consensus, un socle sur cette urgence d'agir. Et même quand on dépasse cette question d'urgence face aux conséquences du changement climatique et qu'on pose la question sous un autre angle, qui est l'angle de la société qu'on souhaite voir advenir, c'est aussi l'utopie écologiste qui est la première à émerger quand on pose la question aux Français. C'est ce que montre l'Observatoire de la société et de la consommation devant d'autres utopies comme l'utopie identitaire sécuritaire ou l'utopie libérale. Donc en fait, peu importe la manière dont on présente le sujet, cette nécessité d'agir dans le même sens, elle existe. Effectivement, par contre, elle se heurte à des questions de comment est-ce qu'on la concrétise sans brusquer donc en donnant les conditions de l'acceptabilité. Du coup, quelques points de réflexion. Le premier, c'est que c'est à nous aussi d'arrêter d'opposer temps long et temps court. Ça a été déjà mentionné plusieurs fois aussi, le fait que certaines politiques écologistes ont pu être l'objet de clivages, souvent autour de la voiture. Ça a été mentionné par les deux intervenants et c'est l'objet de toute une autre table ronde même qui se déroule en même temps à côté. Et avec un sentiment très aigu d'injustice qui était liée à ces politiques-là, où effectivement on a aujourd'hui 15 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité mobilité, donc c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire le choix de leur mode de déplacement et où ce mode de déplacement-là pèse trop lourd dans leur budget. Et pourtant, en face, effectivement, on a développé tout un tas d'outils de contraintes dans l'utilisation de la voiture, notamment en centre-ville, ce qui a créé tout un tas de frustrations. Et ça, c'est un exemple typique de, finalement, le mouvement climat, écologiste, etc., qui atterrit sur des politiques qui, à long terme, font sens pour décarboner, mais en fait, à court terme, cristallisent tout un tas de contestations sociales. Et c'est ça, finalement, qui crée le clivage. La deuxième chose, c'est que du coup, il faut qu'on soit très clair sur les bénéficiaires prioritaires des politiques que l'on propose. La transition écologique, elle est porteuse de tout un tas d'émancipations, en fait, économiques, de santé, de vie collective, etc. Mais pour ça, il faut qu'on assume très, très clairement qui est la cible prioritaire de ces politiques. Et effectivement, ça a été mentionné, en fait, on n'est pas tous sur la même ligne face au changement climatique et face à notre capacité d'action, d'agentivité face à ça. En fait, les personnes qui sont le plus soumises à des pollutions, pollution de l'air, pollution de l'eau, etc., pollution industrielle due à l'activité humaine, les personnes qui sont aussi en première ligne des impacts du changement climatique et qui ne peuvent pas faire le choix d'adapter leur pratique, leur mode de vie, et ben en fait c'est souvent des personnes qui sont contraintes économiquement, qui sont plus précaires ou des classes moyennes également, et qui donc ont besoin de solutions politiques qui assument de les cibler prioritairement. En fait, si on se place du point de vue de la vie quotidienne, nécessairement l'écologie, elle doit être sociale. Du coup, ça implique une troisième chose, c'est de recréer le clivage là où il existe. C'est-à-dire, s'il y a des bénéficiaires prioritaires, alors à l'inverse, il doit aussi y avoir des contributeurs. Et donc, cette fracture, encore une fois, elle est sociale à ce niveau-là. C'est-à-dire que là où c'est possible et là où c'est juste, il faut créer des personnes qui sont, au contraire, contributrices nettes, notamment les plus gros pollueurs. Juste pour finir, je voudrais juste faire un petit pas de côté sur cette question de manière générale de l'acceptabilité de la transition écologique et d'une transition écologique qui, du coup, à très court terme, braquerait plus qu'elle ne serait porteuse d'un futur désirable. Cette question de l'acceptabilité, je trouve qu'on se laisse souvent enfermé dans un certain cadrage, en fait, qui dessert aussi les solutions qu'on porte, tout simplement parce que on ne pose jamais la question de l'acceptabilité d'autres choix politiques qui ont des conséquences hyper concrètes aussi sur les conditions de vie des Françaises et des Français. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est celui du retrait ou de la dégradation d'un certain nombre de services publics un peu partout dans les territoires. C'est un choix politique, on ne parle jamais de l'acceptabilité de ce choix-là. Et pourtant, il y a plein de personnes qui aujourd'hui doivent faire de plus en plus de routes, par exemple, pour accéder au même service qu'il y a 10, 15, 20 ans. Par ailleurs, la question de l'acceptabilité, c'est aussi considérer que par défaut, la transition écologique, elle n'est pas acceptable, alors que très clairement, c'est l'inaction qui n'est pas acceptable parce qu'elle est porteuse d'encore plus d'inégalités sociales, économiques, etc. Et enfin, c'est aussi parce que ça nous met dans une posture, en tout cas ça nous conforte dans une posture qu'on a déjà décriée, qui est celle de la posture moralisatrice des corps intermédiaires, des politiques, etc., qui devrait expliquer aux Français qui n'ont pas très bien compris qu'en fait la transition écologique c'est important, etc. En fait, les Français, ils ont très bien compris que c'était important. Encore une fois, le soutien ne se dément pas, la question c'est qu'ils veulent une transition écologique qui soit juste, et c'est là qu'on doit mettre l'accent.
Merci beaucoup. Alors, Dominique.
Merci. Ça fait à peu près un demi-siècle que la question écologique a fait irruption dans le débat public et dans la vie politique en même temps. Et il y a eu, je crois, plusieurs phases. En 1974, quand René Dumont se présente au présidentiel, il a une posture de prophète. Et ceux qui l'écoutent, c'est une avant-garde éclairée qui tire la sonnette d'alarme. C'est des lanceurs d'alerte, c'est des gens qui expérimentent des modes de vie et d'organisation alternatifs avec moins de conso et une conso plus responsable, moins d'autorité, plus d'autonomie, etc. C'est une époque où on expérimente des solutions qui demandent énormément d'énergie et de ténacité et qui ont des impacts parfois très limités. Dans les années 80, au moment où se crée mon parti, parce que c'est de là que j'ai envie de parler, on a vécu beaucoup dans l'illusion qu'il suffirait d'informer, d'expliquer, de convaincre, de faire appel à la science, à la raison, pour convaincre. Et en attendant que cette mutation ait lieu, on a souhaité expérimenter, faire valoir une politique des petits pas, poser des questions surtout que personne n'aurait posées si on n'avait pas été là. Et on a vécu à une époque plusieurs phases, le déni, la relativisation, c'est pas si grave, on a bien le temps, on va s'adapter en douceur, on va trouver des solutions, etc. etc. C'est l'époque des accords de Kyoto, sur lesquels on a d'ailleurs travaillé avec Laurence Tubiana, il y a d'autres personnes dans cette salle qui y étaient aussi, où sous la pression des États-Unis, et alors qu'on porte un langage assez responsable, on met en place pour l'essentiel des instruments de marché, quand les politiques et les mesures qui permettraient de changer la donne dans l'organisation de nos sociétés, elles, sont laissées à l'appréciation des États. Et puis évidemment, vous connaissez la suite, le travail du GIEC, le rapport Stern sur l'économie du changement climatique, qui montre que le coût de l'inaction est beaucoup plus important que le coût de la transition. Mais c'est à ce moment-là alors même que se consolident les données scientifiques sur la question du changement climatique, que les premières objections s'organisent au tournant du siècle. À gauche, on va nous dire la primauté, c'est la lutte contre les inégalités. À droite, on va nous dire vous menacez l'économie. Et dans le même temps, on a conduit pendant des années une démarche de construction d'un parti de l'écologie, à la fois pour porter des alternatives, mais aussi pour construire un rapport de force avec ceux qui ne souhaitaient pas qu'on change quoi que ce soit. Je passe sur les étapes, hein, parce que les étapes, c'est toutes les étapes qu'on conduit à faire en sorte que ce parti soit plus ou moins unique, non, et trouve des relais dans la société, qui étaient très peu nombreux. Il y avait un peu la CFDT, un peu la Confédération paysanne, des mouvements citoyens d'expérimentation de solutions concrètes, souvent au niveau local, mais enfin, on ne peut pas dire que ce parti correspondait à une attente majoritaire ou même raisonnablement importante dans la société. Moi, je pense rétrospectivement que dès le début, on a fait des erreurs stratégiques importantes. Quand je dis ça, ce n'est pas pour stigmatiser ou critiquer mon propre parti. J'ai été dedans à toutes les étapes. Et si on a fait ces bêtises, c'est aussi évidemment parce que j'ai manqué de lucidité. Voilà.
Il y a quelques responsables dans la salle.
Et il y a quelques responsables dans la salle qui n'ont pas été plus malins que moi. Voilà. D'abord, je pense qu'on a trop longtemps considérer qu'il s'agissait d'une question de responsabilité individuelle quand les seules solutions qui fonctionnent à l'échelle d'une société sont collectives. Je voudrais faire ici, par exemple, le parallèle avec l'obésité. Pendant très longtemps, on a dit aux personnes obèses faut arrêter de manger, t'es trop gourmand, etc. Maintenant, c'est que c'est une maladie qui demande des mesures systémiques au niveau des régimes de protection sociale et au niveau de l'organisation sociale. Deuxième grosse erreur, on a évidemment longtemps sous-estimé le noyau dur de la résistance à l'écologie que constitue le capitalisme. Hein ? Maintenant, j'arrive pas à penser comment un mouvement écologique pourrait être autre chose qu'anticapitaliste. Mais le greenwashing, le marché de l'écologie responsable, le technosolutionnisme, la voiture électrique et j'en passe, vous connaissez ça par cœur. On a d'ailleurs largement dénoncé la responsabilité des riches, mais on pointait davantage les pratiques dévastatrices des riches individuellement, le recours à l'avion, que la responsabilité du marché, la complicité objective des exploiteurs, je veux dire, mais aussi la complicité objective, ne hurlez pas avant que j'ai fini ma phrase, de la classe ouvrière avec l'entreprise. On a fait il y a 2 ans à Besançon un travail effectivement sur les freins au changement dans les couches populaires et on a eu tout un tas d'intervenants qui nous ont montré effectivement que pour beaucoup de gens l'idée que une économie qui fonctionne bien, qui crée des emplois, qui produit des biens, ça finit par améliorer la situation de toutes et de tous. Voilà. Et donc troisième grosse erreur, on a négligé la nécessité d'alliances larges avec les catégories populaires. Je pense que l'écologie populaire s'est longtemps resté un discours en surplomb. Je suis curieuse de savoir ce qui se passe dans l'autre salle. C'est-à-dire qu'on avait des urbains CSP+, qui parlaient des zones rurales, et des urbains CSP+, qui parlaient de la classe ouvrière. Voilà. Mais alors, évidemment, c'est en partie faux, hein, c'est schématique, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a été dans les mouvements des mal-logés, des sans-papiers, des paysans-travailleurs, etc., etc. Mais ça n'a rien changé au fait que les écolos étaient perçus comme des urbains donneurs de leçons qui avaient renoncé au mieux à prendre l'avion. Alors, moi, je me suis parfaitement retrouvée dans les analyses et dans les propositions de l'IDRI, avec sans doute une préoccupation un peu différente, liée à mon passé militant et à mon mandat actuel, avec 2 angles différents. S'agissant du passé, il y a une question qui me taraude, parce que quand même, je suis plutôt sur la deuxième, et même peut-être la troisième partie de ma vie, c'est qu'est-ce qu'on a loupé ? Est-ce que j'ai fichu ma vie en l'air pour rien ou pour si peu de choses ? Et quand je vois les têtes chenues qu'il y a ici, je me dis qu'il y a peut-être plein d'autres gens qui se posent les mêmes questions. Savoir pourquoi j'ai milité, où est-ce que je me suis plantée. Bon. Et si je me positionne aujourd'hui dans mon mandat de député, ben comment, dans cette situation dégradée, faire bouger les lignes et cranter les étapes d'une bifurcation tenace et durable ? D'expérience, il est très long, très dur, ça demande beaucoup de ténacité d'obtenir une avancée, y compris insatisfaisante, et très facile de reculer. Rappelez-vous l'énergie. Moi, j'ai vécu dans mon parti, quand je proposais qu'on dise chaque fois qu'une centrale nucléaire arrive en fin de vie, on a préparé l'alternative. en combinant l'efficacité énergétique, les économies et la diversification dans des solutions plus responsables. Puis on me disait, mais ça va pas, t'es vraiment une sauce d'aime assez molle, toi. Il faut fermer toutes les centrales avant 2025. Vous vous souvenez de ça? Et dans nos discussions avec le PS, on disait, mais vous êtes vraiment irrécupérable, vous voulez pas fermer les centrales avant 2025? Mais on disait pas comment, et avec quelles étapes, et comment on allait cranter. Et donc, ce que je constate, c'est qu'on a pu fermer Superphénix, c'était comment, 1997, il y a un quart de siècle, puis ensuite les deux centrales de Fessenheim, mais que pour l'essentiel, on n'a pas travaillé sérieusement sur ces questions depuis longtemps, tout simplement parce qu'on a sous-estimé aussi le poids des lobbies, le lobby de l'énergie, c'est des gens extrêmement puissants qui travaillent sur le temps long, c'est comme le blob, hein, c'est-à-dire que quand il y a une période néfaste, ils se dessèchent, ils se replient, on les entend pas. Mais ils sont dans tous les rouages de l'État et dès que c'est un peu plus positif, ils redressent la tête et ils pèsent de tout leur poids. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas un parti de masse, mais je ne suis pas sûre que les partis de masse existent encore. On n'a pas un parti représentatif de la diversité des territoires, des classes d'âge, des expériences professionnelles. On a un parti qui s'est longtemps perdu dans des débats internes. Il le fait beaucoup moins maintenant, c'est pas mal. Qui consacre quand même encore beaucoup plus de temps à sa stratégie et aux outils de sa cohésion interne qu'au dialogue avec la diversité des parties prenantes. Un parti qui rémunère davantage la radicalité que la capacité justement à dessiner les étapes par lesquelles on dessert une situation insupportable pour cranter des avancées. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour dire « ça au moins je l'ai gagné », puis on reconstitue ses forces pour l'étape suivante, au lieu simplement de dire que celui qui s'est contenté d'un compromis probablement insatisfaisant au regard de ses propres convictions, c'est simplement un mou. On a aussi un parti qui accorde plus de valeur et plus de temps à la cause palestinienne ou aux droits des étrangers ou aux droits des femmes qu'aux questions écologiques sur lesquelles certains nous disent « on vous entend plus ». Ce qui est faux aussi, parce qu'on fait le boulot, ne serait-ce qu'avec nos élus locaux et tout ça. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais ni que c'est politiquement ou humainement faux, parce que c'est juste aussi de s'engager sur ces luttes-là. Mais ça nous est souvent renvoyé et ça nous cantonne dans un camp en apparence minoritaire. Bon. Alors même qu'on a fait le boulot sur des sujets qui sont au cœur de des débats d'aujourd'hui. Moi, je suis stupéfaite de voir que, s'agissant des taxes Zucman, c'est le PS qui en est crédité, alors que ça a été déposé à l'Assemblée, dans une proposition de loi portée par Eva Sass, écolo, et Clémentine Autain, de l'après, qui siège au groupe écolo aussi. Voilà. Même chose pour l'épiphase. Hein. Alors, l'écologie, ça reste un sujet important pour une majorité. J'ai presque fini, hein. Je sais, voilà. Je ne sais pas, on peut citer quelques exemples, le succès de la pétition du plomb, mais je me pose dans un coin de ma tête une question. Est-ce que ça aurait aussi bien fonctionné si ça avait été porté par le parti écolo ? Sûr que non. Mais il y a d'autres indices. Hier, j'ai visité une ferme du président de la Chambre d'agriculture régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Il est évidemment FNSEA, c'est une très grosse ferme qui produit beaucoup de lait, qui gagne beaucoup d'argent, qui est très endettée aussi. Et c'était assez drôle parce qu'on s'entend bien, on se parle bien. Et en même temps, le gars m'a expliqué le changement climatique. Qui est devenu extrêmement concret pour eux. Mais en des termes qu'ils auraient trouvé militants, excessifs, insupportables il y a encore 10 ans. Hein ? Alors il y avait un peu de mansplaining, évidemment, parce qu'il avait une fille en face de lui, forcément j'avais besoin qu'il m'explique. Mais ça témoignait quand même d'une vraie préoccupation de sa part. Voilà. Et le gars me dit, donc FNSEA, me dit, le problème en France, c'est qu'on n'utilise pas bien le deuxième pilier de la PAC. Et il me dit, on ne met pas assez d'argent sur le deuxième pilier de la PAC. Puis je lui dis, mais ton syndicat, il fait quoi ? Tu vois, parce que le syndicat n'est même pas capable de se positionner clairement contre le Mercosur, puisqu'il y a des filières au sein de la FNSEA qui défendent effectivement une vocation exportatrice de la France. Alors, je vais pas répéter ce qui a été dit sur l'écolo-bashing, mais je voudrais qu'on le prenne en compte dans la période, dans la phase qui s'ouvre, parce que ça a changé de nature l'écolo-bashing. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait l'impression qu'il y avait les acteurs économiques et financiers, l'industrie, l'agriculture, etc., les gros, qui n'avaient pas intérêt. Moi, je pense que de plus en plus, on a des adversaires idéologiques, notamment l'extrême droite. Hein. L'extrême droite qui m'accuse d'avoir torpillé le nucléaire français, donc on a réussi à fermer que 3 centrales sur 58 en 30 ans, vous imaginez, mais surtout qui fait des montages qui sont sur TikTok, etc., etc., avec des arguments assez fous. Même chose sur les caricatures faites de Sandrine Rousseau, par exemple sur le barbecue. Elle a jamais dit qu'il fallait pas faire de barbecue, elle a pointé le fait qu'il y avait une distribution genrée des rôles, ce qui était quand même pas tout à fait la même chose. Mais évidemment, sur quoi ça s'appuie cet écolo-bashing, ben, ça s'appuie beaucoup sur l'image qu'on donne et sur l'image que donne de l'écologie des gens qui mettent en œuvre des solutions avec lesquelles on n'est même pas vraiment à l'aise. Moi, je veux bien me faire engueuler tous les jours sur les ZFE et le ZAN, mais ce n'est pas les écolos qui ont pondu ça. Hein ? Ça a été mis en place depuis 2017 par un autre gouvernement et par d'autres services que les nôtres. Mais les normes, les contraintes, etc., si c'était efficace, ça se saurait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, en tout cas. C'est-à-dire que tant en ce qui concerne la qualité de l'habitat, tant qu'en ce qui concerne, par exemple, la lutte contre les pesticides, Ecophyto 1 et 2, ça a demandé beaucoup d'argent, ça ne marche pas super. Voilà. Donc, je ne redis pas ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, comment on fait ? Moi, je passe parce que je vais être beaucoup trop longue, mais comment on fait ? Je vois deux pistes, d'abord. D'abord, il faut qu'on soit plus attentif à garder l'expérience du travail qu'on a déjà réalisé et qu'on jette de régulièrement sans accumuler d'expérience. Moi, j'ai fait, je crois, je l'assume, je le revendique, une vraie expérience d'écologie populaire à Montreuil pendant un mandat et ça n'a intéressé personne dans mon parti, personne. La végétalisation des cours d'école, les classes vertes dans les parcs de la ville, l'aménagement urbain qui permettait de réduire la violence dans l'espace urbain et de mieux vivre la ville, la mixité dans l'habitat, y compris avec des vieux et des jeunes ensemble, y compris avec des Roms, y compris avec des travailleurs migrants, etc. L'art dans les quartiers dont les habitants étaient fiers, les épiceries solidaires, j'en passe, la démocratie locale, bah, bref, j'en passe. Mais donc, je ne voudrais pas qu'on fasse ça avec nos maires d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a énormément d'élus locaux. Et ils sont un peu abandonnés. Moi, je pense que c'est la fierté de notre parti, ce qui se fait sur le territoire et sur le terrain. La deuxième chose, ça a l'air idiot et dérisoire, mais je parle à tout le monde. J'ai un peu du mal avec le RN, hein, mais voilà, quand même. Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans la société avec lesquels il n'y a pas des pas à faire ensemble. Et le premier avantage de ça, c'est que ça fait baisser le niveau de conflictualité. Ça permet de réduire les impasses dans la discussion. Moi, je rencontre la FDSEA, je l'ai déjà dit, mais aussi la CONF, bien sûr, mais aussi la coordination rurale, où j'ai vu qu'il n'y avait pas que des fachos, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, des chasseurs, des naturalistes, etc., etc. Parfois, je me rends compte que la seule chose que j'obtiendrai d'eux, c'est juste qu'ils se rendent compte que je suis une personne normale. Voilà, que y a pas, c'est pas contagieux. Hein, voilà. Et parfois, on arrive à acter des actions en commun. La semaine dernière, on va au CHU à Besançon et on acte avec la direction du CHU, les équipes de la cuisine, le président de la Chambre d'agriculture, que le moment est venu pour le CHU de rentrer dans Egalim, malgré les contraintes. Et on travaille sur les solutions concrètes pour avancer. Vous allez me dire, ça ne va pas changer le rapport de force au niveau national. Mais à un moment donné, il faut quand même empoigner un truc qui fait qu'on est un peu fier de ce qu'on fait et de ce qu'on est aussi. On ne s'excuse pas d'être écolo, voilà. Et puis, dernier point, je pense qu'il y a urgence à ce qu'on ne laisse pas les autres imposer, et c'est le même point finalement que je décline, leur propre clivage. C'est-à-dire qu'il y a, Pierre Charbonnier a bien montré qu'il fallait construire la coalition verte contre la coalition fossile, mais au-delà de ça, moi je voudrais qu'on construise, je voudrais qu'on sorte de, il y a le camp des victimes de l'écologie, ou des perdants, versus le camp de ceux qui donnent le son. C'est-à-dire qu'on veut, et moi, pour moi, ça a toujours été le moteur de mon engagement, moi, je pense que l'écologie, c'est la seule façon d'éviter la guerre, quoi. C'est-à-dire que d'éviter le combat de chacun avec tous les autres. Pour moi, un modèle de société moins violent, moins, comment dirais-je, qui n'humilie pas, qui ne casse pas les gens, qui ne sont pas les vainqueurs du modèle actuel, c'est ce qui nous permet d'éviter la guerre civile et de construire du collectif. Et c'est pour ça que j'ai envie de combattre le Front National. Ce n'est pas juste pour des raisons morales, c'est aussi pour des raisons concrètes. Je veux qu'on vive dans un monde vivable, et ça me paraît une condition préalable.
Merci beaucoup. Bruno, à toi.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord vous dire que j'ai le plaisir d'être président de la métropole de Lyon et donc le territoire de la métropole de Lyon n'est pas représentatif de la France. On est un milieu plutôt urbain, 1 450 000 habitants, une ville principale qui fait 500 000 habitants, beaucoup de quartiers populaires sur la couronne Est et quand même encore une vingtaine de communes de moins de 5 000 habitants avec des villages. Donc on n'est pas représentatif, mais on n'est pas non plus totalement décalé, avec la chance d'avoir une collectivité territoriale particulière, élue au suffrage universel direct, qui a les compétences d'une agglomération et d'un département, la main sur les transports en commun, et donc une capacité à agir beaucoup plus forte qu'ailleurs, avec globalement 5 milliards de budget annuel, si on tient compte de Citral Mobilité. Alors je voulais réagir sur plusieurs choses. Le premier, c'est sur le recul écolo. Il est indiscutable au niveau de la planète, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec les reculs au Parlement européen ou encore en France avec la loi Duplomb et beaucoup de décrets plus ou moins cachés qui ont été pris avec un nombre de reculs énorme depuis quelques mois. Mais je pense que ce recul écolo est une conséquence d'autre chose qu'est la montée de l'extrême droite, de la droite extrême et du populisme. Et donc ce n'est qu'un volet de ce qui est attaqué. On l'a vu notamment au niveau local avec des attaques en Pays de Loire, en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur la culture. On n'a pas forcément compris pourquoi, au début, Laurent Wauquiez allait taper les acteurs culturels. Bon, honnêtement, il m'a fallu quelques mois pour comprendre la stratégie. C'était la stratégie, on est contre les élites. On veut jouer le territoire, le rural, le peuple, donc de façon très propice contre les élites. Et la suite de ces politiques, en tout cas ici en France, c'est pas tellement l'écologie forcément qui est visée, ou pas que, c'est le social. On est en train de créer des conditions pour que dans le pays, le modèle social français chute. On a tout fait pour que les départements qui portent les politiques sociales, de la protection de l'enfance, du handicap, des personnes âgées, de l'insertion avec le RSA, ne puissent plus assumer leur rôle. Et donc, dans quelques temps, je ne sais pas si dans quelques mois ou dans deux ans, on nous expliquera qu'on ne peut plus financer le modèle social, qu'il faut des aides uniques, je ne sais pas quoi, et on tapera les plus précaires qui sont les plus nombreux. On est sur cette dynamique et donc l'attaque de l'écologie, elle est plus, comme l'a dit Dominique aujourd'hui, on a connu autrefois, c'était l'attaque de lobby avec des intérêts économiques qui étaient rationnels quelque part. On est plus sur de l'idéologie populiste portée y compris par des milliardaires qui contrôlent les médias. Donc on a changé un peu d'univers. Et ce recul écologique, oui, quand on parle aux citoyens, en tout cas sur notre territoire, il y a naturellement des sujets qui sont importants. Je pense au pouvoir d'achat, à la sécurité, à la question du logement. Mais les questions environnementales, de santé, de pollution restent très hautes. Donc les habitants, ils sont toujours porteurs de ces sujets. Et donc on a parlé du ZAN. Moi, je n'ai jamais eu un habitant, je ne sais même pas si ça existe d'ailleurs, qui est contre le ZAN. On a une droite populiste qui est contre le ZAN, avec le soutien de maires qui ont l'impression qu'on leur enlève encore un bout de pouvoir. Ils n'en ont plus beaucoup. Mais si vous expliquez à un Français, quel qu'il soit, rural ou urbain, qu'il faut préserver nos terres naturelles agricoles et qu'il y en a marre de bétonner, je pense que la question du ZAN, si elle est posée normalement, est quand même majoritairement très favorable. Et c'est pareil pour la ZFE. On a eu une baston nationale sur la ZFE où Alexandre Jardin, qui a, je ne sais plus, 5 ou 10 millions d'euros de revenus de droits d'auteur par an, nous explique les gueux. Enfin, c'est quand même, il faut être assis hein, quand on l'écoute. La réalité, c'est que les ZFE qui ont été un peu mises en place, efficaces, tout est relatif sur le territoire, il y a Paris, il y a Lyon. Alors, Strasbourg, un peu plus loin déjà. Celles qui ont un peu d'effet, vraiment. Nous, on a eu deux manifs contre des ZFE. Une fois, c'est les Insoumis, une fois, je crois que c'était les motards, mais il n'y avait personne. Moi, sur le terrain, y compris quand je vais en banlieue, les gens ne me parlent pas de la ZFE. Et pourtant, on a mis, en plus, on a accompagné, on a mis plein de dérogations. Là, on a créé une nouvelle pour que la moitié de la population, celle qui a le revenu fiscal, les 50% premiers, aient une dérogation supplémentaire sur le critère 3. Et il n'y a pas besoin d'avoir une voiture électrique pour rouler à 30 000 balles. Il suffit d'avoir une voiture critère 2, voire même 3 pour certains, qui vont 5 000 balles d'occasion. Donc, c'est pas simple. Mais en tout cas, il y a des solutions. Et la réalité, c'est que dans nos politiques publiques, on a doublé les investissements dans les transports en commun. Ce qui est énorme, on a lancé là 3 lignes de tramway et une ligne de bus au niveau de service. On les a mis où ? À l'est, dans les quartiers populaires. Et le mât du taureau à Vau-en-Velin, ça fait 50 ans qu'on leur avait promis une ligne forte. Nous, on le fait le tramway, il arrive d'ici un an. Donc il y a des solutions, il y a des choix politiques, et donc il faut faire attention naturellement entre le discours ambiant et la réalité territoriale. Et deuxième point sur lequel je voulais arriver, c'est sur la culture minoritaire qui a été évoquée. Évidemment qu'il faut changer, et évidemment qu'il faut assumer une radicalité, parce qu'on ne peut pas changer les choses sans une politique radicalement différente, très fortement différente. Mais par contre, la radicalité, c'est pas le discours, ce sont les actes. Et donc, moi, je n'ai rien contre le problème du barbecue genré. Elle a tout à fait raison, Sandrine Rousseau, mais c'est juste tellement contre-productif auprès de la population et qui le réglement qu'elle a, en tout cas, qu'elle a tort in fine, parce que ça ne passe pas du tout. La radicalité, c'est l'action publique. Et plus on est radical en termes d'action publique, plus il faut être pédagogue, plus il faut amener les gens, et moins il faut créer des clivages. Et donc c'est difficile, et d'une culture minoritaire extraordinaire de ce qu'ont fait les écologistes depuis très longtemps, et notamment avec Dominique, qui est important et on leur doit beaucoup, aujourd'hui on n'en est plus là. Et donc dans ce monde en plus caricatural, où on a des choses de plus en plus complexes à gérer et qu'on cherche de plus en plus à les simplifier, eh ben, il faut que la radicalité soit vraiment celle de l'action et non pas celle de la caricature des propos. Il a été évoqué aussi la question de fin du mois, climat, justice sociale. Alors nous, on commence à plus trop être attaqué, d'ailleurs localement, sur cette question. Parce que moi, j'ai succédé à Gérard Collomb, qui avait été élu trois fois depuis 2001 avec l'étiquette socialiste. Et tout le monde voit qu'entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui était fait hier, c'est le jour et la nuit en termes social. Nous sommes le premier territoire qui avait offert un revenu de solidarité pour les jeunes, qui a permis à des jeunes de moins de 25 ans d'avoir une aide très rapide. On en a accompagné 3600 qui étaient dans la merde, passez-moi l'expression, qu'on a pu accompagner plus tôt, remettre dans des parcours, et donc ça fonctionne de les accompagner 6 ou 7 mois. On a créé une tarification solidaire dans les transports en commun avec la gratuité pour les plus précaires. On a récemment fait une tarification aussi solidaire et environnementale sur l'eau, avec un versement solidaire eau pour 65 000 foyers pour qui le prix de l'eau représentait plus de 3% de leurs revenus. On a conventionné avec 12 associations d'aide à domicile pour que les plus précaires aient un reste à charge de zéro sur l'aide à domicile. Et je pourrais continuer comme ça sur des mesures sociales qui sont très nombreuses sur le territoire. Alors on a aussi parlé de zones à faible émission. Je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas un sujet très important, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, la pollution la plus forte, elle est sur le périphérique, là où habitent les populations les plus précaires. On a les logements sociaux, et la réalité, c'est que l'action qu'on a faite, plus que la ZFE, c'est surtout la baisse de la circulation automobile par toutes les politiques qu'on a menées, qu'en est la cause, la pollution, elle baisse fortement, elle baisse plus vite qu'ailleurs. Et pour la première fois sur le périphérique en 2024, on est en 39 microgrammes par mètre cube sur le dioxyde d'azote, en dessous du seuil réglementaire actuel, là où on était à 62 en 2019. Donc tout ça fonctionne. Et puis, autre point suivant, on a parlé un peu d'économie. Tout ça, il y a une rationalité, parce que dans les attaques qui sont faites, il y a l'attaque de la science qui est très forte. On cherche à déconnecter le rationnel quand même du débat public. Et donc quand on parle de pollution, tout le monde a compris quand même qu'il y avait 40 000 morts par an, 100 000 selon les études, et beaucoup de cancers. La population l'a comprise. Mais l'étape suivante à faire comprendre, c'est qu'on a un rapport de France Santé, qui est du mois de février, je crois, qui explique quand même que si on arrivait aux normes OMS pour le dioxyde d'azote ou les particules fines, on économiserait 11,3 milliards d'euros par an. Et donc, quand on voit tout l'argent qu'on ne met pas pour ces politiques, on aurait besoin, on parle de centaines de millions d'euros, un ou 2 milliards, avec 11,3 milliards d'économies, il y a aussi du rationnel à remettre en avant dans nos politiques très radicales. Et ce qui est particulier quand même dans ces politiques, c'est qu'on a la question climatique qui est essentielle. Alors moi, je n'ai jamais dit qu'on allait faire un mandat pour sauver le climat, parce que je n'ai jamais cru que ça tenait la route. Donc ça fait très longtemps qu'on parle d'adaptation du territoire au changement climatique. Et qu'on sait très bien qu'à l'échelle de la métropole de Lyon, même si on prend notre part sur les émissions qui baissent beaucoup plus vite qu'ailleurs, d'ailleurs, notre enjeu sur le territoire qui est celui en France qui va se réchauffer le plus vite, c'est naturellement d'adapter le territoire. Et ce qui est particularité sur la compréhension des politiques et la radicalité, c'est qu'on a des politiques comme celle des mobilités, qui comporte fortement réduction de la place de voiture, développement du vélo, qui est très clivante, alors qu'en vérité, elle a commencé sur Lyon en 1995, sous la mandature de Raymond Barre, qui a relancé le tramway,
Et donc, après, tous les autres mandats ont fait diminuer la place de la voiture pour plus de transports en commun, plus de vélos, plus de piétons. On n'a fait qu'accélérer le mouvement fortement. Et donc, ça, c'est hyper clivant. Alors, finalement, la réalité, c'est peu radical, puisqu'on n'a fait que continuer. Et que des politiques beaucoup plus radicales, parfois, je pourrais prendre celle de l'alimentation, de l'agriculture, où mon vice-président, le vice-président Jérémy Camus est là, mais pour en parler lui-même, ou celle de l'eau. On a changé, mais radicalement, la politique de l'eau, en emmenant les gens. On est passé en régie publique. Bon, ça, c'est pas le plus radical. Mais surtout, on est revenu sur un urbanisme qui retrouve le cycle naturel de l'eau pour que, naturellement, on désimperméabilise et que l'eau de pluie retourne à la nappe phréatique. C'est une évidence. Quand vous l'expliquez aux gens qu'actuellement, on a 50% d'eau filtrée dans la station d'épuration qui est de l'eau de pluie, que dès qu'il pleut un peu trop, on ouvre les vannes et qu'on pollue les milieux naturels et qu'il faut faire autrement, ben ils comprennent. Même notre opposition de droite, qui ne sont pourtant pas tous brillants. Et donc, il y a des choses quand même... Non plus, mais ils comprennent encore. Mais donc, on arrive à cranter des choses. On a une assemblée des citoyens, des usagers de l'eau, 200 personnes militants bénévoles qui viennent travailler. Ils sont quatre, d'ailleurs, à être représentés à la régie de l'eau. Ils ont pondu la tarification solidaire et sociale de l'eau. Ils ont travaillé 6 mois, 1 an sur un truc super compliqué. On n'a pas fait d'ailleurs un truc parfait parce que c'est tellement compliqué, mais on a fait un truc qui était réfléchi, accepté par la population. À la régie de l'eau, on a mis tous nos groupes d'opposition représentés. Et in fine, je pense que sur cette politique l'eau qui a radicalement changé, même en cas d'alternance politique, je pense que le gros de cette radicalité s'est conservé parce qu'on a su convaincre. Et donc, c'est là où on voit, tout n'est pas toujours rationnel, mais il y a quand même des choses qui sont positives. Et puis, comme j'ai été très long, je vais simplement finir en vous disant qu'il y a l'enjeu naturellement des citoyens, mais il y a l'enjeu aussi des acteurs économiques, entreprises. Et aujourd'hui, nous, sur le territoire, alors on en a toujours qui font du greenwashing, mais moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui sont convaincus qu'on fait la convention des entreprises pour le climat, qui sont ressorties transformées et qui adaptent aujourd'hui leurs entreprises, avec qui on arrive à bosser, avec qui on arrive à avancer, et dans les signaux positifs quand même, celui-là me paraît très important, parce que je crains malheureusement que sur les gros enjeux, on évolue et on ait plus de résultats avec les entrepreneurs qu'avec nos futurs gouvernements.
Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne des séries d'interventions, peut-être 3, 4 ou 5, en vous demandant d'être évidemment court, questions ou interventions, mais courtes, hein, pour laisser la place. Je suis sûr que toutes ces exposés, très passionnants, avec des sensibilités diverses, des points de vue assez convergents parfois divers, vous auront passionné. Donc, je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Et donc, on va commencer par prendre les premières interventions, si vous pouvez lever la main. Alors, qu'est-ce qui ouvre le feu ? Voilà, allez.
Alors, je crois que c'est Dominique Ouanet qui en a parlé, mais pourquoi, j'aimerais reprendre, pourquoi l'écologie est de gauche et pas de droite ? Pourquoi on ne pourrait pas faire une démarche écologique de droite ?
Merci, c'est une question. Alors, on continue les questions ou les interventions. Je vois que vous êtes tout ça, vous l'avez, c'est pantois, totalement pantois. Ça vous a anesthésié. Alors, la deuxième question, parfois plus difficile que la première, mais pas toujours. Oui.
Je voulais rajouter une couche à la question de mon voisin. Depuis ce matin, en fait, je pense que écologie et gauche, ça va ensemble. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a deux partis. Plus.
Très bien. On va peut-être prendre cette question. Moi, je rajouterai une petite question, peut-être, aux uns et aux autres. Pourquoi, du coup, l'écologie n'est plus à droite, hein ? Parce que il est clair que l'écologie n'est plus à droite et à l'extrême droite, alors qu'elle pouvait l'être avant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le champ des idées, y compris ? Est-ce que c'est simplement une façon de surfer sur l'actualité ou sur des sujets ? Ou est-ce qu'il y a un sujet de fond ? Pourquoi l'écologie a disparu de la pensée politique ? Alors que je vous rappelle, du temps du pacte de Nicolas Hulot, tous les partis politiques, sans exception, ont signé le pacte. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors qu'est-ce qui veut répondre à ces différentes interrogations ? Il y a des questions ? Alors on continue. S'il y a des questions, on continue. Allez, au fond là-bas.
Moi, ce sera peut-être un peu différent. Je suis dans le sud de Clunisois, dans une région très rurale, bien sûr. En discutant avec les ruraux, beaucoup avec les paysans, surtout suite aux dernières élections locales, leur grande préoccupation, ils ont horreur de deux choses, des Arabes et des écolos. On peut peut-être positiver si vous voulez, mais moi je suis très très inquiet vis-à-vis de ça. C'est une agriculture qui est relativement respectueuse de l'environnement. On sent des blocages jusque dans les toutes petites, chez les jeunes de ces gens-là. Quoi. J'interviens à titre de, je suis écologue de formation et j'étais enseignant dans un lycée agricole et donc j'interviens au collège de Matour pour justement travailler là-dessus. Même les jeunes, ils s'insultent. L'insulte suprême entre jeunes, c'est se traiter d'écolo. Quoi. Je trouve ça très, très grave et très inquiétant pour moi. Quoi.
Merci. Autre question, autre remarque, oui.
Oui, toujours pour continuer dans le panorama un peu du positionnement de l'écologie, les risques de l'écolo-fascisme, parce qu'il n'y a pas que les écolos qui parlent d'écologie. Et effectivement, ça prolonge aussi un petit peu l'intervention précédente.
Merci. Autre question où on commence à faire un petit tour de table sur toutes ces questions de positionnement qui sont en effet tout à fait essentielles. Très bien. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir en premier? Qu'est-ce qui veut réagir? On n'est pas obligé de tous réagir à chaque fois. Hein. Donc, allez, Bruno.
Alors, l'écologie de gauche ou de droite, moi vraiment, je trouve que le débat est dépassé. Et puis, je ne vois pas pourquoi, y compris, il faudrait se prononcer. Mais en tout cas, c'est très clair. Il y a des gens avec qui on peut travailler et d'autres avec qui on ne peut pas travailler. Et aujourd'hui, moi, la droite à Lyon, c'est Laurent Wauquiez. Donc, je vais vous dire très simplement que l'écologie, la nana, mais rien à faire. Donc, la question ne se pose même pas. Déjà, je ne peux pas travailler avec lui. Donc, après, je regarde avec qui on peut faire des majorités. Et là, actuellement, c'est plutôt la gauche. Et après, pourquoi la gauche et l'écologie ne sont pas ensemble? Ben, je pense que, je ne sais pas s'il y a l'écologie dans la gauche. En tout cas, il y a trois mouvements aujourd'hui. Il y a les sociodémocrates autour du PS, il y a la gauche radicale autour des insoumis et il y a les écolos. Je pense qu'on a tous des histoires et des positions différentes. Et on a plein de différences. Des fois, on en a entre écolos, mais quand même pas tant que ça. Et donc, c'est assez logique qu'il y ait des mouvements dans la société. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à travailler avec les deux autres mouvements que j'ai cités et au-delà. Moi, je pense qu'il faut travailler avec d'autres. On verra dans les semaines qui viennent si on y arrive ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de majorité sur ces trois pôles de gauche et écologie. Donc, de toute façon, pour faire majorité, il faut aller au-delà. Ensuite, il y a la question de la droite qui n'est plus écolo, qui avait signé le pacte et qui, ben oui, mais simplement parce qu'ils n'y croyaient pas. C'est aussi simple que ça. À un moment donné, ils se sont dit, on est obligé de dire qu'on signe le pacte et qu'on est d'accord quand ils étaient de droite et d'extrême droite. Ben, ils ne le pensaient pas vraiment. Et bien, à la limite, c'est pas plus mal, ça clarifie le débat. Moi, je suis pour la sincérité. Je préfère Bruno Retailleau, avec qui je ne partage rien, mais qui est sincère dans ce qu'il dit, que Laurent Wauquiez, qui peut dire quelque chose et le contraire le lendemain. Mais au moins, ça pose le débat, on est en démocratie. Et oui, actuellement, l'extrême droite progresse, y compris chez les jeunes. Y compris chez les jeunes, c'est particulièrement inquiétant. Si on prend les 16-20 ans, l'extrême droite est très forte. Et donc, on est en train quand même d'arriver, très probablement, à une victoire de l'extrême droite en France, comme on l'a eu dans d'autres pays. C'est quand même ça qui est en train de se passer, et c'est ça qu'il faut arriver à contrer. Mais il ne faut pas nier la réalité de la situation aujourd'hui. C'est cette montée très forte. Alors l'écolo-fascisme, là je ne vois pas du tout. Peut-être que ce serait une solution pour diriger le pays, mais alors je ne vois pas du tout comment il arrive. Hein. Donc heureusement, parce qu'on n'est pas pour le fascisme, mais on en est très loin. S'il y avait une dictature écolo un jour, peut-être qu'il y aurait des points positifs, mais là aussi, je ne vois pas comment on y arrive.
Dominique.
Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'imaginais mal une écologie qui ne soit pas anticapitaliste. On a pu imaginer peut-être, et Bruno nous dit que c'est possible qu'il arrive à travailler avec des entreprises, moi aussi à Besançon, mais plutôt des PME ou des entreprises qui sont sur des créneaux compatibles avec l'écologie. C'est facile de travailler avec Alstom sur le développement du train. Mais on a aussi des entreprises dans lesquelles les cadres n'ont aucune espèce d'initiative. On a une usine Mondelez à Besançon. Et la directrice de l'usine nous dit « Moi, je reçois les recettes, je reçois les produits, je reçois des ordres. Selon le niveau des ordres et leur impact financier, ça vient des États-Unis, ça vient de Cologne, ça vient de la banlieue parisienne. Je ne décide de rien, j'exécute. Voilà. Donc, c'est vrai que le capitalisme, il a évolué aussi dans sa forme la plus financiarisée, la plus mondialisée, avec un extractivisme qui reste triomphant et qui conduit à ce que le prix des matières premières, ça vaut pas plus que le travail des êtres humains, c'est pas grand-chose. Je pense que on est forcément en rupture avec avec la toute-puissance de ce modèle, voilà, et avec les États qu'ils défendent et qui s'en inspirent. Accessoirement, je fais une toute petite, une toute petite sortie de route pour dire, moi, quand j'entends dire que Trump pourrait avoir le prix Nobel de la paix, je me dis, ben, il suffit d'avoir la puissance. Non, mais oui, oui, mais pas cette année, mais tu vas voir, il va faire d'autres efforts. En 24 heures, il va te régler une autre guerre. Non, mais indépendamment de ça, si l'idée, c'est de dire, on reconnaît la loi du plus fort, du plus armé, du plus puissant, de celui qui est en situation de faire et défaire des États, on est un peu en train de s'éloigner du sujet. Alors voilà. Donc pour moi, déjà, c'est un des arguments pour lesquels l'écologie est ancrée dans le camp de la contestation de l'ordre établi et dans le camp de la gauche. Après, sur l'écologie de droite, bah, elle a longtemps existé sous forme d'un attachement à la terre, au terroir, au patrimoine, aux traditions, hein, aux traditions, y compris patriarcales, etc. etc. Et comment dirais-je, je pense qu'elle existe encore. Elle existe encore. Il y a des gens à l'Assemblée qui nous font des discours de défense d'un ordre qui n'existe plus, en fait, qu'il rêve encore aujourd'hui. Voilà. Et puis, à droite, il y a aussi des gens qui ont un peu du mal à ne pas défendre leurs privilèges et leur place dans la société et à ne pas se faire le porte-voix de leur classe sociale, on va dire, et qui ont pourtant des préoccupations environnementales sérieuses et sincères. Corinne Lepage, on ne peut pas dire simplement « mais la droite ». Bon, voilà. Bon. Je pense aussi que à droite, ce que je vois beaucoup à l'Assemblée, c'est une très forte confiance dans le technosolutionnisme encore. Hein, c'est-à-dire qu'on va trouver, écouter les scientifiques, laissez-nous chercher, ce qui les conduit d'ailleurs à mettre des milliards dans la fusion nucléaire, dans ITER, au lieu finalement de se poser la question d'une société plus sobre pour réduire les injustices. Voilà. Il y avait la gauche et l'écologie, pourquoi on n'est pas ensemble? Ben, moi, j'ai tout compris. Je suis désolée, hein, Giraud. Giraud, il a été longtemps au Parti Socialiste. Alors,
je ne suis plus depuis 10 ans. Hein,
voilà. Mais quand même, quand on rentrait dans le hall à Solferino, il y avait la galerie des affiches des campagnes présidentielles antérieures. Et il y avait l'affiche de Mitterrand en 1965. Et il y avait un TGV, un pylône à haute tension et une centrale nucléaire sur son affiche. Voilà. Et je pense que pendant très longtemps, une grosse partie de la gauche a cru dans la possibilité de résoudre une partie des problèmes sociaux par le progrès scientifique et technique. Voilà.
Je voudrais rajouter deux, trois éléments. Pourquoi la gauche et l'écologie vont ensemble? Je pense quand même qu'il y a une raison de fond, c'est que quand vous pouviez vous limiter à de la sensibilisation des petites mesures, etc., vous n'aviez pas forcément besoin de vous poser la question des inégalités. Or, aujourd'hui, la transformation, pour avancer, la transformation est forcément profonde, elle est forcément des modes de vie, elle touche vraiment la façon de vivre. Vous ne pouvez bien régler ce sujet que si vous avez une politique très offensive de réduction des inégalités, en dehors des politiques écologiques, mais aussi à l'intérieur des politiques écologiques. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus permettre, c'est mon avis, d'avoir des propositions pour l'écologie, qui, en interne, aboutissent à aggraver les inégalités sociales, ce qui, quand même, a été la tentation de divers responsables, etc., depuis une vingtaine d'années. Il ne faut pas se voiler la face. Et je crois qu'on ne peut plus se permettre ça pour cette raison-là. Et ça répond à l'objection de notre ami qui nous dit « je vois des gens très, très énervés, etc. » Pourquoi ils sont énervés? D'abord, je pense parce qu'ils sont frustrés. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils pensent qu'il faut faire des choses sur l'écologie. Ils sont pas contre, a priori, l'écologie. Mais d'une part, l'écologie, ça leur arrive d'en haut sans qu'ils aient leur mot à dire. D'autre part, ils n'ont pas forcément les moyens de réagir et ils voient que d'autres, au contraire, peuvent réagir. Et troisième élément, ils constatent que ça n'avance pas assez vite, ou que ça, même parfois ça n'avance pas. Et donc, ils se disent... Pourquoi cette écologie qui finalement aboutit à que des inconvénients et aucun avantage? Alors, il y a aussi, évidemment, la superstructure politique, on l'a dit, l'extrême droite, qui essaye d'utiliser ça, etc. Mais il y a une question de fond qui est, finalement, comment arriver à ce que des modes de vie se transforment avec l'accord des gens. Et moi, je dis franchement les choses, je pense que une des clés, c'est quand même qu'on est un pays beaucoup trop centralisé, qui associe beaucoup, bien pas assez les citoyens, et que si on avait une organisation institutionnelle plus claire, plus décentralisée, avec des pouvoirs citoyens, y compris dans les collectivités locales, hein, avec des pouvoirs de citoyens plus clairs et pouvant se saisir d'un certain nombre de sujets, je pense personnellement qu'on n'aurait pas ce type de réaction. Alors on me dit en même temps, l'argument contre, c'est on me dit, mais c'est des réactions qu'on entend partout en Europe, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit à ce niveau-là que dans différents pays d'Europe qu'en France. Je ne mésestime pas la montée du vote populiste, mais je pense qu'il y a des caractéristiques françaises de cet aspect, de cette question qu'il ne faut pas négliger. Alors, je passe la parole pour une deuxième série. Oui ? Non, non, attendez le micro, il arrive.
Elle aussi, elle y était au début. Bon, simplement, effectivement, je voudrais pas remettre en question tout ce qui vient d'être dit et j'attache beaucoup d'importance notamment à la dernière prise de position. Mais ma question, c'est comment vous pouvez continuer, elle s'adresse plutôt à Dominique Voynet, comment on peut, alors on peut être anticapitaliste, ça c'est aucun problème, mais comment on peut travailler à rendre le niveau de vie de tous, c'est-à-dire travailler sur l'égalité, la fiscalité, en sachant que les ressources planétaires sont d'une part restreintes, deuxièmement que nous sommes dans une situation, la France, qui est aidée par rapport au reste du monde, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique du Sud, etc. C'est-à-dire que nos précaires sont quand même dans une situation... Alors effectivement, c'est par rapport à la France, et votre situation est une situation de parti. Mais imaginons qu'on parle seulement de la planète. Hein, comment une écologie de gauche qui veut rendre les précaires moins précaires, peut en même temps répondre à la question de la ressource. Voilà.
Merci. Alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent de ce côté-là.
Oui, merci pour vos interventions. J'ai une petite remarque en lien avec l'acceptation des transformations nécessaires à un vrai virage écologique dans la population. Et en fait, je vais revenir à ce qu'on appelle la pyramide des besoins fondamentaux de l'enfant pour s'épanouir. Et je vais les citer. C'est une pyramide. Donc le plus important, c'est que les besoins physiologiques soient remplis, alimentation et santé, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, ensuite il y a l'estime, etc. Et on en parle beaucoup pour les enfants, mais en fait je pense que c'est la même chose pour les adultes. Et que si ces besoins fondamentaux des adultes ne sont pas non plus assurés, eh ben, les virages ne vont pas être acceptés parce que ça crée trop d'inquiétudes. Et en gros, l'épanouissement n'est pas possible. Donc je ne sais pas si vous avez des commentaires.
Merci beaucoup. Oui.
Alors, moi, je voulais proposer d'apporter des éléments de réponse à Madame Voynet sur le « où est-ce qu'on s'est planté ?». Parce qu'effectivement, si on était bons, nous, les écologistes, à changer les opinions et changer les pratiques, ben, tout le monde serait écolo. Et malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Alors, pour plusieurs petites raisons, vous m'arrêtez au bout de 5 minutes. Voilà. D'abord, on ne vit pas dans le même monde. On est les victimes de nos biais cognitifs, on est les conditionnés par nos croyances sociales. Et puis on a des différences de perception, qui fait qu'il ne faut certainement pas avoir des discours basés sur le subjectif. C'est bien, c'est pas bien, 19 degrés, c'est chaud, c'est pas chaud, ça marche pas, on vit pas dans le même monde. Ensuite, la manière dont les comportements se font et se défont, alors on sait qu'il y a des ressorts très puissants. Effectivement, la réponse aux besoins individuels, selon la pyramide de Maslow, c'est l'un des moteurs les plus importants de l'action. Et j'ai envie de dire, enfin, on a tous fait un peu le constat que l'écologie, c'est une préoccupation de gens bien nourris et dans un certain confort, que tant qu'on n'a pas atteint ça, c'est normal que voilà, on fait d'abord passer les autres préoccupations. Il y a un autre ressort très important, c'est la pression sociale. Et quelque chose que vous avez peut-être tous ressenti, on sait aujourd'hui en observant le cerveau qu'une... l'ostracisme social, comment ça s'appelle, quand on est coupé du groupe, C'est la, hein, l'exclusion. L'exclusion, c'est le, la même douleur physiologique que la douleur physique. Ça se passe au même niveau que le cerveau. Et vous l'avez expérimenté quand vous avez une peine de cœur, par exemple. C'est vraiment douloureux. Et donc, l'individu fera toujours le choix de suivre son groupe plutôt que de devenir un original dans son groupe en étant le seul à faire du vélo si les autres ne le font pas. Donc, répondre à ses besoins premiers, surtout suivre son groupe. C'est d'ailleurs les ressorts qu'on va utiliser ensuite quand on veut changer les comportements. Et monsieur Bruno Bernard, vous savez, j'ai formé les élus de la métropole de Lyon dans ces thématiques-là. Alors, une autre chose super importante, c'est la force des habitudes. On parle de force des habitudes. Quelque chose que vous savez tous, comment ça s'appelle, réflexe de Pavlov, qu'une habitude forme un circuit neuronal. Et j'ai envie de dire, vouloir lutter contre une habitude, c'est vouloir lutter contre de la biologie. Quand un circuit neuronal est fait, c'est pas avec des paroles qu'on va changer ça. Vous n'allez pas transformer un gaucher en droitier en lui disant « c'est pas bien d'être gaucher, deviens droitier, vous comprenez ça ». Donc une habitude, ça se change pas par des propos, malheureusement. Il y a énormément, voilà, c'est pour ça, arrêtez-moi, il y a énormément de raisons pour lesquelles, alors pas, de la même manière, c'est pas l'information qui fait l'action. On le sait aujourd'hui, les campagnes de sensibilisation ne font pas agir. Parce que l'action, elle dépend d'une décision. Poussez les gens à prendre des décisions. Ne vous arrêtez surtout pas à l'information. Enfin voilà, il y avait énormément de choses que je voulais vous dire. Mais voilà, ouverte pour tous ces propos-là.
Merci, peut-être, sauf si... Oui. Oui. Alors, il y a une question derrière. Une remarque, oui.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos prises de parole très dynamiques. Ça fait du bien. Dans la lignée de ce qui vient de se dire, moi je vous entends, ça me fait un peu bondir intérieurement. Vous avez l'air de penser que la majorité de la population serait convaincue par l'écologie, compatible. Je me permets de m'inscrire en faux, j'y crois pas beaucoup. Et je me demande sur quelles données vous vous basez pour... Là, vous citez juste le nombre de signataires de la pétition du plomb, ça ferait toujours que 2 millions sur 70 millions. Ouais, c'est moi des chiffres qui m'inquiètent et je me demande si on ne vit pas tous collectivement dans le déni pour des questions de santé mentale. Par ailleurs, je reconnais totalement, on a besoin de positifs, mais j'ai peur en ce moment de voir un peu trop de déni sur ces questions-là. Et ma question, c'est surtout à Dominique, ne pensez-vous pas que ce pourquoi on a du mal à avancer, à atteindre une majorité culturelle, c'est en partie parce que si on... Enfin, déjà, nous, on n'a pas un mouvement, mais que le mouvement ne porte pas une alternative crédible ou désirable ou même ne serait-ce que compréhensible pour le reste de la population alternative au capitalisme qu'on aurait pris le temps de dessiner, sur lequel on aurait pris le temps de se mettre d'accord. Parce que je pense que c'est illisible pour le reste de la population française, ce que veulent les écolos, ce que proposent les écolos, et nous-mêmes entre nous. Parfois, c'est pas toujours clair. Donc, est-ce que vous pensez que ça fait pas partie du problème, qu'on manque d'alternative, une alternative qu'on puisse, à laquelle qu'on puisse communiquer, sur laquelle on puisse essayer de convaincre et de mobiliser?
Merci beaucoup. Alors, je pense une bonne partie des questions qui sont pour Marion, qui a envie d'intervenir.
Oui, alors, que des questions très intéressantes. Et en fait, je pense que les questions qui ont été posées tournent toutes autour de la grande question qu'a posée Pierre Charbonnier. Dominique, vous évoquiez Pierre Charbonnier, mais c'est exactement la grande question de son essai « Abondance et liberté », où, en gros, il se demande, finalement, la grande promesse sociale de la modernité, ça a été de promettre l'émancipation et la justice sociale pour tous, par l'abondance matérielle et du coup en s'appuyant sur un modèle de développement qui était très extractiviste, etc. Maintenant, comment on fait pour réinventer une promesse de progrès social qui ne repose pas sur ce modèle extractiviste et sur cette promesse d'abondance matérielle qui en réalité n'est pas tellement soutenable? Et en fait, sans doute qu'il faudrait préciser qu'il nous manque ce récit, il le manque aussi à la gauche. Mais qu'il ne faut pas espérer trouver un grand récit magique qui pourra répondre à cette question. Les philosophes peuvent éventuellement s'y atteler, mais du côté politique, je pense qu'il faut regarder plutôt les grands sujets de mal-être social, en fait, qui sont vraiment très profonds chez un certain nombre de classes sociales, classes moyennes, classes populaires. Et il y en a une en particulier qui commence à monter de façon très forte et, à mon avis, assez transclasse, c'est celle du mal-être au travail. En fait, le mal-être au travail prend une diversité de formes infinie. Ça peut être le malaise du cadre libéral qui a le sentiment d'être dans ce qu'on appelle un bullshit job. Ça peut être le jeune diplômé qui arrive sur le marché du travail et qui a le sentiment que son apport risque d'être remplaçable parce que il y a par exemple des études qui montrent que les emplois qui vont être menacés par l'IA, c'est peut-être ceux des jeunes diplômés qui normalement arrivent sur le marché du travail en ayant comme apport une fraîcheur dans leur domaine théorique. Ils apportent des qualités rédactionnelles, des qualités de réflexion théorique, etc. Mais pas forcément de séniorité dans le savoir-faire de l'expérience, etc. Et ce sont typiquement ce genre de compétences qui peuvent être remplaçables par l'intelligence artificielle. Donc il y a une inquiétude qui monte, et évidemment, côté classe ouvrière, profession intermédiaire, le fait de ne pas avoir d'autonomie dans son travail, le fait d'avoir de la pénibilité dans son travail, surtout qu'il y a des critères de pénibilité qui ont été supprimés récemment. Donc ce mal-être au travail, c'est un sujet qui monte, et peut-être qu'on pourrait réinventer des promesses ou des récits autour de ça politiquement à gauche, en joignant à la question écologique. Le problème, c'est que comme on est marqué par un précédent historique de chômage de masse, la gauche a souvent posé la question du travail en des termes juste d'accès à l'emploi, promettre des emplois, etc. Or, la question des conditions de travail, du bien-être au travail, de recréer un travail émancipateur, ça peut être une question sociale par excellence à laquelle joindre la transition écologique.
Merci. Clara, tu veux intervenir ? Clara.
Ouais, pour compléter aussi plusieurs prises de parole et plusieurs répondre à quelques questions qui ont été posées depuis tout à l'heure. Pour moi, la question aussi du récit alternatif qu'on recrée, il faut absolument qu'il soit très ancré dans des réalités vécues, territoriales, qui sont très diverses. Et ça a été dit, les injonctions écolo et du coup le mouvement écolo, et là, c'est à la fois côté parti, côté politique et puis côté société civile, on est perçu, et donc nos messages sont perçus comme étant très descendants, très déconnectés, émanant du coup de certaines catégories, donc CSP+, ça a déjà été évoqué, bobo, très urbain, etc. Et la critique est quand même partiellement vraie, faut le dire quand même. Et je fais le parallèle avec ça, avec le fait que donc dans le même temps, on a cette forme d'écologie par l'injonction, en tout cas elle est perçue comme telle. On a évoqué déjà un certain nombre de politiques qui ont été perçues comme trop descendantes, trop injustes, dont on a l'impression qu'elles nous tombent dessus au même moment où justement on a cette impression, à l'inverse, de désinvestissement de l'État, où l'État disparaît de la proximité. On disait tout à l'heure, en fait, on fait de plus en plus, par exemple, de kilomètres pour accéder aux mêmes services. Dans le même temps, l'État revient par la porte de l'écologie. Et que du coup, parfois, en fait, l'écologie, c'est un peu le dommage collatéral. Et quand il y a des levées de boucliers, c'est pas tant contre les politiques écologiques à proprement parler, mais contre cette incompréhension en fait de l'État qui se désinvestit d'une part et qui revient par la petite porte de l'écologie d'autre part, et du coup une forme voilà de sentiment d'injustice et d'incompréhension de où est-ce qu'on va en fait avec tout ça. Et tout de suite était aussi mentionnée cette question de la décentralisation et des moyens qu'on donne aux collectivités pour agir. Ce mouvement-là, il est financier aussi, c'est-à-dire que on a eu bon tout un tas de lois de décentralisation jusqu'en 2015, et puis en même temps, alors que les collectivités ont de plus en plus la main et des compétences pour mettre en place des alternatives de transition écologique très concrètes et qui seraient du coup d'autant mieux acceptées qu'elles sont pensées par et pour certains territoires dans leur diversité, on a une recentralisation des moyens financiers pour mettre en place ces initiatives-là, et donc une capacité moindre, paradoxalement, à la mise en place de ces politiques. Donc voilà, pour moi, vraiment, une partie de la réponse est aussi dans cette question de comment est-ce qu'on donne la capacité aux collectivités de créer sur leur territoire, et du coup de manière pertinente à ses besoins, ses opportunités, etc., des alternatives de transition écologique qui répondent à des vrais besoins des habitants.
Merci beaucoup. Dominique.
Oui, cette dernière question est fondamentale, la question du territoire. Moi, quand j'étais maire, j'étais stupéfaite, alors que la ville dans laquelle je vivais touchait Paris, de constater qu'il y avait une partie importante de la population qui n'était jamais allée à Paris, alors même qu'il y avait le métro. Et donc, je pense que la gauche porte une assez lourde part de responsabilité, pas seule, dans une réforme des régions et des fusions à l'arrache qui ressemblait à rien, dans la réforme de la fiscalité locale qui ressemblait à rien. Et le travail a été poursuivi par d'autres après. Je pense par exemple à la désastreuse suppression de la taxe d'habitation, hein, qui bénéficie aux CSP+, et qui a privé les collectivités locales du minimum de ressources au niveau local. J'aurais voulu aussi peut-être, je suis tout à fait à l'aise avec ce qui a été dit à la fois par Marion et par Clara, mais j'aurais voulu, à côté de la question de la souffrance au travail ou de la dégradation des conditions de travail ou de la perte de sens au travail, rajouter peut-être une ou deux bricoles. D'abord, je pense que un des lieux sur lesquels on peut agir, c'est comme aussi la consommation, quoi. Parce que dans le même temps, il y a des gens qui se disent ah « bah, c'est super, je vais acheter des vêtements sur Chine et puis je pourrai changer souvent », il y a aussi des gens qui se posent la question des impacts de la fast fashion. Il n'y a pas que des bourgeois qui le font ou des gens qui ont les moyens. Je pense qu'il y a comme une prise de conscience assez large, notamment dans les jeunes générations, que consommer plus, ça ne te rend pas plus heureux, quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, il y a un autre sujet dont on s'était beaucoup emparé au moment où on critiquait le temps passé au travail, où on plaidait pour la diminution du temps de travail et pour la semaine de 4 jours ou les 35 heures ou autre il y a quelques années. C'est la question du temps, quoi. Plusieurs l'ont dit de façon un peu éparse, le temps qu'on passe à se déplacer, le temps qu'on passe à faire ses courses, le temps qu'on passe à faire des démarches, on n'a pas gagné de temps avec la numérisation de l'ensemble des procédures, hein. On le passe autrement, etc. Le temps perdu, passé à scroller, etc., etc. Je pense que la question des temps de la vie, la façon dont on le partage, c'est aussi une des questions dont il faudra s'emparer dans un récit capable de redonner du désir et de créer de la cohésion.
Bruno, oui.
Oui, un petit mot sur la question de la décentralisation, parce que je pense que le premier sujet pour les collectivités locales, c'est l'autonomie fiscale. C'est pas d'avoir plus de compétences, c'est déjà de pouvoir assumer nos compétences et de décider de nos recettes. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dominique l'a rappelé, la suppression de la taxe d'habitation n'a quand même aucun sens, non seulement parce qu'elle n'est pas égalitaire, mais en plus parce qu'elle coupe le lien entre le contribuable et les services municipaux. Mais on a fait pire. On a supprimé la moitié de la CVAE. Alors, c'est vrai que personne ne sait ce que c'est, hein. Globalement. Mais moi, il y avait plus de 300 millions d'euros de recettes sur la métropole de Lyon de CVAE. Donc c'est une taxe payée par les entreprises, cotisation, on va la rajouter. On ne comprend pas trop comment c'est calculé. Quand on est entrepreneur, on sait qu'à la fin, on paye tant. Enfin, quand on suit ses comptes de prêt, comme je faisais moi quand j'étais entrepreneur. Donc plus de 300 millions d'euros de recettes que l'État nous a enlevés et nous a filé la TVA à la place. Mais la TVA, ça, ils ont arrêté de la rendre dynamique. Donc on est en train de perdre, on avait une recette dynamique, efficace, en lien avec le territoire, on a une TVA qu'on nous plafonne, et donc on perd des dizaines de millions par an. Mais en plus, on perd tout intérêt à développer l'activité économique. On crée des entreprises de l'install, donc ça va nous faire des coûts, elles sont où nos recettes? C'est totalement débile comme mesure. Et quand je demande aux entrepreneurs du territoire, t'en penses quoi, CVAE? Alors, il y en a déjà plein qui me disent, c'est quoi, CVA? Ah, j'en paye deux fois moins? Bon, bah, je ne savais pas. Alors, il y en a une qui m'a dit, non, c'est bien là. J'ai appris, c'était un gros cimentier, et j'ai vu après qu'elle était au conseil d'administration du MEDEF national. Donc, j'ai compris pourquoi elle était intéressée par le sujet. Mais en vrai, personne sur le territoire, les entrepreneurs, par contre, quand je leur explique, avec ces pertes de recettes, on va être obligé de diminuer l'investissement dans les mandats prochains et tu vas avoir moins de boulot, là, ils ne sont pas d'accord. Hein. Ils préfèrent payer la CVE. Donc, on voit bien qu'il y a quand même des choses. C'est l'autonomie, avant tout, des recettes des collectivités qui comptent. Et nous, on sait qu'à terme, sur la métropole de Lyon, on va garder deux politiques très ambitieuses qui sont celles où on pilote nos recettes. C'est l'eau et l'assainissement, parce qu'on peut assumer d'augmenter les taxes sur la facture d'eau et d'assainissement. Donc là, c'est une décision politique. Et sur les déchets, avec la taxe d'ordures ménagères, où là, pareil, on peut assumer ou pas d'augmenter la taxe et donc d'avoir un niveau de politique publique à côté. Tout le reste, on va devoir prioriser entre les politiques sociales, environnementales, de mobilité, où est-ce qu'on fait les coupes. C'est ça, en tout cas, qui est en train de se passer, et donc une attaque des politiques territoriales. Donc avant de parler de décentralisation, recentralisation, moi, je veux de la thune, en gros. Enfin, je veux pouvoir avoir de l'autonomie fiscale. Parce que sinon, on ne parle de rien.
Merci. Marion voulait rajouter quelque chose, je crois.
Oui, je voulais juste rebondir sur cette question des injonctions qui a été évoquée. Je pense que le vrai problème, c'est peut-être pas tant qu'il y a des injonctions à la sobriété que le fait d'avoir des injonctions à la sobriété et d'autres injonctions qui sont complètement contradictoires. C'est-à-dire que on est dans une société qui joue beaucoup sur le, qui fonctionne beaucoup sur le statut par la consommation, etc. Donc, en fait, nos classes moyennes et nos classes précaires, elles sont complètement compressées entre, d'une part, une injonction permanente implicite à la consommation et au consumérisme, au fait de démontrer son statut par la consommation et d'avoir un mode de vie dispendieux, etc. Et de l'autre côté, cette injonction à la sobriété. Il suffit de regarder pour ça les modèles standards de vie qui sont véhiculés par le cinéma, les séries, etc. C'est pas du tout des modes de vie sobres. Et donc en fait, faire passer des messages de sobriété dans le débat public alors que tout dans notre culture appelle plutôt à la consommation, c'est ça qui est particulièrement irritant pour la plupart des gens, et c'est particulièrement représenté par nos publicités, où vous allez avoir une publicité pour un SUV avec un tout petit message en dessous, prenez plutôt les transports en commun. Donc il faut résoudre cette contradiction et cesser de croire qu'il n'existe plus d'injonction au consumérisme. En fait, elles sont tout le temps là.
Merci. Alors je voulais rajouter un petit point qui me paraît assez important et sur lequel je trouve qu'il y a une panne de réflexion, y compris des différents partis politiques, etc. Le vote populiste est un vote où le principal clivage, c'est le diplôme. Chacun le sait. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un problème, en particulier dans notre société, de place du diplôme par rapport à l'accumulation d'expériences professionnelles et donc de trajectoires professionnelles. Je pense que le diplôme initial a beaucoup, beaucoup trop d'importance dans notre société. Et qu'il faudrait qu'il y ait un certain nombre de gens qui se penchent sur des mesures pour arriver à d'abord diminuer cette importance et donc valoriser l'expérience professionnelle. Et ensuite, moi je suis très frappé de voir, je ne rentre pas dans le débat sur les retraites, mais de voir que personne ne pose la question dans le débat sur les retraites qu'à un certain moment, un travail pénible peut peut-être être converti dans quelque chose d'autre. Et que donc il y a des trajectoires à construire. Et en France, on ne sait pas faire ça, ou en tout cas, on ne le fait pas beaucoup, à ma connaissance. C'est-à-dire que vous êtes à un endroit, et puis vous avez une continuité, et une continuité qui est tracée à l'avance, mais qui n'est pas très différente de votre emploi initial. Et donc, je pense que là, il y a vraiment un problème de fluidité de la société qui est évident, et je constate qu'il y a pratiquement aucun parti politique, en tout cas à gauche, à droite, ce n'est pas leur sujet, mais à gauche, qui se saisit de ça. Et je pense que ça mériterait d'être expertisé pour qu'il y ait un certain nombre de réponses qui soient données à ça. Parce que si on veut vraiment lutter contre le vote populiste, encore une fois, le clivage du diplôme, le clivage de la connaissance est absolument essentiel. Et ça rejoint évidemment l'écologie parce que c'est un clivage qui ensuite structure, y compris parce que l'écologie, c'est la complexité aussi. Et que donc si vous ne faites pas ce travail, si vous n'avancez pas dans ce travail, eh bien vous perdez une chance de convaincre un certain nombre de gens. Alors je passe la parole à une dernière série, on verra l'heure. Merci. Oui.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce débat. Je me permets deux petites remarques pour dire qu'il y a un débat très intéressant aujourd'hui qui est en cours. Sur la question des modes de vie, qui a été évoqué pour acter que les modes de vie, ce ne sont pas les comportements. Voilà, je crois que ça parle aux gens de l'IDRI. Et ce que je voulais suggérer, c'était que on évoquait tout à l'heure les erreurs stratégiques. Et les erreurs stratégiques, c'est souvent à un moment donné des points aveugles qu'on a sur le social. Et je crois que nous avons aujourd'hui un point aveugle sur le social qui est, si vous voulez, un peu comme une géologie. C'est pour ça qu'il faut croiser les regards et tous les cadres d'analyse sont vraiment intéressants. Mais le social, c'est aussi du psychique. Et au moment où le débat public prend une tournure, je dirais, plus populiste, la question des affects devient en fait première. Je renvoie à ce que nous avons observé aux États-Unis, qui a sidéré les démocrates, c'est-à-dire voir des Américains qui défendaient mordicus, contre toute vraisemblabilité, le fait que c'était l'extrême gauche qui avait pu, déclencher tel ou tel mouvement à Washington, etc. Et je vous renvoie par exemple aux travaux de Cynthia Fleury, j'en parle tout le temps, mais ça me paraît tellement important, et à son ouvrage qui s'appelle Sigil amer, et où elle explicite là, ces questions du ressentiment. Je crois que pour les démocrates que nous sommes, on a là un champ d'investigation vraiment maintenant pour pouvoir comprendre en fait qu'est-ce qui se joue dans le débat public qui réussit tant aux leaders populistes et si peu aux démocrates. Je terminerai en disant que les leaders populistes s'adressent aux affects, ils cherchent à déclencher des réactions affectives et ils s'intéressent bien peu, comme nous le savons, à la question de la véracité des propos. Alors que les démocrates s'efforcent, plein de bonne volonté, à essayer de tenir un dialogue avec des controverses en essayant de tenir la ligne de la véracité des propos. Et donc, vous voyez, notamment pour les prochaines échéances, je crois que là, il y a quelque chose ensemble à réfléchir et à aller chercher des cadres d'analyse qui nous permettent de comprendre. Quand même, cette dimension du social ne vient pas exclure, bien au contraire, tout ce qu'on a dit sur les inégalités. Hein, ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais à partir d'un certain moment de dégradation de la qualité du débat public, il faut vraiment s'intéresser à la couche psychique du social. Voilà, merci à vous.
Merci. Alors, d'autres... oui, devant. Si vous pouvez
faire passer. Merci. Alors, merci pour vos interventions que j'ai trouvées très pertinentes. J'ai une question sur la part de la science et du savoir scientifique dans le débat politique. Je me demande, est-ce que la science suffit pour convaincre les populations ? Et aussi, dans le cadre de l'écologie, je pense que toutes les recherches scientifiques qui ont été effectuées, notamment sur l'impact des activités anthropiques sur l'environnement ou même l'évolution du climat, toutes les prévisions que l'on connaît tous aujourd'hui, en quoi l'avenir de l'écologie peut-elle s'orienter vers ce consensus scientifique ? Donc est-ce que l'écologie du futur doit s'inscrire dans tous ces consensus scientifiques qui ont été déjà établis, ou bien dans les réalités sociales et sociétales que vous avez du coup mentionnées depuis le début de ces interventions?
Merci. Alors, d'autres interventions là-bas au fond.
Bonjour et merci. Je reviens sur le « on peut, quand on peut, on veut ». J'avoue que ça m'a beaucoup aidé à relire beaucoup de choses. Mais pouvoir, on en a parlé, c'est donner les moyens, mais pas que. Il faut aussi des lois, des cadres, des normes. Et là, on a le choix entre la carotte, l'incitatif, l'écologie punitive, le bâton, le contrat, la norme. Et moi, là, je suis un peu perdu pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir privilégier quand on a des urgences quand même. Par exemple, Dominique Voynet parlait du programme Ecofito qui a dépensé effectivement des millions et des millions pour arriver à une augmentation de la quantité de produits phyto épandus par les paysans. Ça n'a pas marché. Et hier, on avait une intervenante qui racontait l'histoire de la ceinture de sécurité dans les voitures, et qui expliquait comment, à partir d'une bonne idée, puis d'une option sur les voitures, puis d'une obligation sur les voitures, mais pas d'obligation de les utiliser, le nombre de morts a toujours été le même, jusqu'à ce qu'on oblige à mettre la ceinture. Et là, tout d'un coup, le nombre de morts a chuté drastiquement. Et moi, ça m'ennuie, cet exemple-là, parce que j'ai, voilà, obligé... Enfin, ça, c'est de l'écologie, de la santé, je ne sais pas comment l'appeler. Comment on va aborder ces questions au-delà des moyens financiers qu'il faut redonner, notamment au territoire? Comment on va aborder cette question de, au fond de la loi?
Merci. D'autres interventions devant?
Oui, moi j'avais une petite remarque plutôt, parce que vous avez évoqué le rôle joué par le diplôme. On n'a pas du tout évoqué la notion d'éducation populaire, qui me semble aussi particulièrement intéressante, et comment aussi on peut envisager une éducation populaire écologiste. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, on avait beaucoup de classes vertes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins aujourd'hui, et pour autant, je pense que ça peut jouer un rôle majeur, y compris parce que la société est hyper complexe. Donc c'est plutôt, et je pense que c'est globalement ce qu'on représente aujourd'hui, les CSP+, ceux qui ont fait des longues études, qui finalement vont pouvoir appréhender ces complexités-là, etc. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble de la population ait aussi accès à ce que c'est que l'écologie? Et donc voilà, quelles sont les différentes modalités d'éducation populaire? Je fais même un deuxième exemple, après les classes vertes, par exemple, on a des universités du temps libre qui sont plutôt à disposition ou utilisées par les personnes qui sont retraitées, qui ont du temps. Et finalement, dans nos vies professionnelles, en tant que jeune ou moins jeune, on n'a pas forcément le temps à côté. Donc ça vient, c'est aussi la question du temps de travail. Hein, mais pour avoir le temps de se former, de s'éduquer, de faire des trucs comme aujourd'hui. Donc voilà, quid de tout ça.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a des frustrations qui subsistent de l'intervention? Sinon, on va donner un tout petit peu plus de temps à chacun à la tribune pour développer ses points et conclure. Oui.
Oui, je voudrais d'abord me...
féliciter des propos qui ont été tenus. Donc Alain Youn, je suis à Strasbourg, je suis élu depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Juste deux, trois constats et puis une question. La première, c'est il est évident qu'il y a un recul écolo. Quand je dis écolo, l'air du temps a changé. Et pour se souvenir, je pense que la très grande majorité, à la fois de ce qu'était le climat du moment, l'air du moment, que ce soit le sommet de Paris, que ce soit le Grenelle de l'environnement, ou les problématiques que l'on soulève aujourd'hui avec toutes les difficultés qu'on a, je ne veux pas dire qu'elles étaient évidentes, mais on était sur, je dirais, une espèce de vague qui, ce qui aujourd'hui est difficile, semblait atteignable, semblait possible, et la société était dans cet état d'esprit malgré toutes les résistances qu'il y avait. Donc ça, c'est vraiment le premier constat. Deuxième élément, sur la décentralisation et les moyens. Alors, on est très souvent en Allemagne, on est juste à la frontière, je vois souvent les copains des Grünen de l'autre côté. La situation avec un régime politique ou une institution différente est assez proche. C'est-à-dire le backlash écologique, c'est exactement la même chose, dans la même situation. C'est-à-dire qu'on le voit politiquement au niveau de la place des Grünen dans l'espace politique, mais on le voit aussi par rapport à l'extrême droite. Quand on va vers l'Est, dans le Land autour de Leipzig, Leipzig c'est rouge et vert, et autour il y a l'AFD. C'est-à-dire que le rapport de l'urbain ou du rural est exactement, relativement proche par rapport au nôtre. Et donc par rapport à ce que tu disais, Bruno, sur il faut des thunes, que je partage tout à fait, je dirais ce rapport de l'écologie très centre-villien, et donc du rapport au milieu ruraux, sans caricaturer, c'est une réalité qu'il faut qu'on se pose aussi et que la question institutionnelle ne suffira pas. Troisième remarque, il y a les injonctions qui sont vécues par les gens individuellement. Et donc, comment arrivons-nous à ce que les politiques publiques pour tous ne soient pas identifiées comme étant de l'injonction et de la punition individuelle? Je crois que là, on rentre dans le psycho et autres, mais je pense qu'il faut que quelque part on l'identifie parce que on le voit. Pourquoi est-ce que ça m'atteint? Alors que les politiques publiques sont des politiques plutôt universalistes. Donc j'ai la question qui est toute simple et peut-être compliquée, c'est aujourd'hui, donc 2025, face à ce défi, quel type de dialogue au pluriel, quel type d'alliance, et pas seulement alliance politique, hein, je m'entends tout à fait, pouvons-nous prendre en compte, y compris au niveau européen, parce qu'on aura beau faire des choses chez nous si quelque part cette situation, on ne l'imagine pas au niveau européen. Donc quel dialogue, quel chemin, quelles alliances au sens large du terme, politique, associatif, sociétal, pour, revenir et nous redonner un peu espoir. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans cette situation-là. On gère ce qu'on peut encore gérer en termes de situation de défense. On est sur la défensive en particulier. Comment est-ce qu'on se redonne de l'espoir pour les prochains mois et prochaines années, même si l'espoir aujourd'hui est quelque chose d'assez difficile?
Merci. Ce sera la dernière, mais très belle question, évidemment. Donc peut-être qu'on va prendre dans l'ordre inverse de la dernière fois, chacun pouvant réagir sur un certain nombre de questions et puis conclure peut-être, donc en commençant peut-être par Bruno.
Alors plusieurs choses pour rebondir sur tout ce qui a été dit. Le premier, c'est sur le côté anti-écolo. Moi je pense quand même qu'on a une montée tout court dans la société de dégagisme anti-tout. Donc il n'y a pas que l'écologie qui est visée. On est vraiment sur quelque chose. On est sur un climat quand même de zéro bon. Et depuis la dissolution de l'été 24, on a demandé leur avis aux Français qui sont exprimés de façon nombreux. Et on n'a pas tenu compte indiscutablement des résultats. Et aujourd'hui, on a encore un président de la République qui est en train d'expliquer au chef de parti qu'il faut qu'il fasse une alliance de la gauche aux républicains comme il demande depuis 2024 pour continuer ses politiques à lui. Bon, enfin, on crée quand même un contexte où, franchement, on n'aide pas les citoyens à se retrouver, à être positifs. Et donc, forcément, l'acceptation du changement et de toute, et même de la politique, est quand même compliquée. Sur l'éducation populaire, elle est essentielle. Maintenant, elle est quand même en grosse difficulté sur notre territoire, pour des questions financières depuis longtemps, mais aussi pour des questions de modèle. Le centre social avec qui fonctionne, mais selon quand même le conseil d'administration, avec de moins en moins de bénévoles. Enfin, on est aussi sur des modèles qu'on n'a pas su réinterroger, réaméliorer. Et à l'époque des réseaux sociaux, on ne touche plus les gamins de 15 ans comme on les touchait peut-être autrefois. Donc je n'ai pas la solution toute faite. Mais je pense que cette question d'éducation, elle est naturellement essentielle. Elle rejoint celle de la science. Parce que de toute façon, pour être rationnel, il faut avoir des données, il faut avoir l'éducation, il faut avoir la compréhension, il faut avoir l'échange. Il y a de moins en moins d'échanges dans les populations, dans les foyers. On est de plus en plus isolés. Il y a quand même les jeunes qui ont 20 ou 30 ans qui vont passer leur temps sur leur portable, et parfois des plus anciens comme nous, beaucoup trop, plutôt que d'échanger. Donc il y a beaucoup d'effets quand même négatifs. Et je ne sais plus qui a dit... que l'écologie, vous croyez qu'elle était toujours là et majoritaire. Non, moi je ne crois pas du tout que l'écologie soit majoritaire dans le pays. J'ai même dit à demi-mot que je craignais que l'extrême droite gagne assez rapidement dans le pays. Donc la situation, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout bonne. Et ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'espoir. L'exemple qui a été donné sur la ceinture de sécurité, moi je le trouve très bon, mais moi, quand j'étais gamin, on ne mettait pas la ceinture parce que ce n'était pas obligatoire. Mon œil, on l'a mis, ça ne m'a pas marqué. Et puis la génération d'après, elle met la ceinture, il n'y a aucun problème. Et on a évité plein de morts. Donc je pense qu'il y a aussi des choses obligatoires qui fonctionnent très bien. Et on devrait peut-être, des fois, y aller un peu plus vite dessus. Et puis pour finir sur peut-être une touche plus positive, c'est qu'on est ici à Cluny, dans le Clunisois, qui est quand même très écolo. Il n'y a pas qu'en milieu urbain. Je ne sais pas qui est du territoire du coin, mais comme j'ai une maison familiale à 3 km, je connais quand même un peu le terrain, donc il y a quand même aussi des choses qui se passent dans les territoires ruraux, des choses positives, des modèles, donc tout est possible, même le meilleur, mais il va falloir quand même se bouger un peu le cul.
J'ai pas l'impression qu'on dort, mais bon, voilà. Moi je crois aussi qu'on a on est confronté à une sorte d'épuisement, d'érosion du collectif dans toutes ses dimensions. Moi, je ne rencontre jamais un responsable syndical qui ne me dise pas on a vachement de mal de mobiliser nos adhérents. Je ne rencontre jamais un responsable associatif qui ne me dise pas c'est difficile, nos adhérents sont devenus des consommateurs, on n'a plus de bénévoles. Pareil pour les animateurs de clubs sportifs qui disent les parents déposent le gamin devant le stade et puis on ne les revoit plus jusqu'à l'heure de venir les chercher. Donc je pense que le repli identitaire décrit par Bruno, la recherche de solutions individuelles, c'est un problème en soi, évidemment. Quelle piste de solution? Il n'y en a pas une. Il faut qu'on les combine en fonction des situations. Et idéalement, à l'issue d'une délibération démocratique, dans certains cas, il va falloir interdire des molécules dangereuses, interdire le marketing des produits trop gras, trop sucrés, trop salés aux heures où les gamins sont devant la télé. Il va falloir prendre des décisions après concertation, si possible, mais parfois contre l'avis des citoyens, et puis on va se rendre compte que ça marche, parce qu'il faut, le tri des déchets, ça a marché, inciter, encourager, appuyer, et surtout mobiliser une boîte à outils qui rend les choses possibles quand les gens ont pris leurs décisions. Ça a été dit tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir accès aux bonnes informations pour changer. Et c'est comme pour le moment où tu arrêtes de fumer. Ben, tu as beau savoir que ton risque d'avoir une insuffisance respiratoire chronique ou un cancer est évidemment élevé. Si t'es pas prêt, t'es pas prêt, ça sert à rien. Par contre, quand t'es prêt, il faut que les alternatives soient disponibles et possibles. En ce moment, dans notre coin, on a une route nationale qui est fermée sous un tunnel et une explosion de la fréquentation du train sur la même ligne. Ben, encore heureux qu'il y a le train. C'est-à-dire que quand les gens doivent, il faut qu'ils puissent. Voilà, c'est ce que tu as dit aussi tout à l'heure. Voilà. Sur la science, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant. Je suis membre de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et je me rends compte que les parlementaires, les députés, les sénateurs qui sont à l'OPEXT, ils sont extrêmement attachés à la science. Et quand ils disent la science, c'est la science dure. Hein, voilà. Mais la science, elle n'échappe pas à l'évolution de la société, c'est-à-dire cette spécialisation, ce morcellement. Beaucoup de scientifiques, ils ont accès à un angle d'attaque sur un sujet particulier. Et ça ne leur donne pas la moindre légitimité pour s'exprimer sur tout et n'importe quoi, comme le faisait Claude Allègre. Vous vous souvenez que Claude Allègre, il était spécialiste en tout, hein, au motif qu'il a vu un prix en géologie. Voilà. Donc, je pense que c'est important, non seulement qu'on écoute les scientifiques, mais qu'on sache aussi d'où ils parlent. D'où ils parlent, pour leur donner de la force. Enfin, ça suppose, par exemple, si on prend les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, qu'on soit capable de regarder l'impact, puisque c'est la question que vous posiez, des activités humaines sur le climat, la biodiversité, la santé, mais aussi sur l'organisation sociale elle-même. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, la direction des usines Peugeot a décidé de supprimer les bus qui faisaient le ramassage des ouvriers dans toutes les communes autour de l'usine. Alors, ils ne l'ont pas fait en disant « ça nous coûte trop cher les bus ». Ils l'ont fait parce qu'ils avaient, dans un souci d'organisation de l'usine, individualisé de façon très forte les horaires des équipes. Donc, ils ont démantelé les solidarités au sein des équipes, mais ils ont obligé aussi chacun des ouvriers à se débrouiller et à venir en voiture. Et là, je me dis, quelle conséquence écologique, elle est majeure. Mais elle n'est pas identifiée au départ comme une décision prise pour des raisons écologiques. Il faut des thunes. Il faut des thunes, a dit Bruno. C'est pragmatique, il faut de l'argent. Mais de mon expérience, on consacre encore beaucoup plus d'argent à réparer les dégâts qu'à préparer la transition. Et si je prends l'exemple, par exemple, de la mutation de l'industrie, on continue à porter à bout de bras des industries dont on sait qu'elles sont condamnées quand même. Et on n'est pas sûr, on est incapable par exemple de relocaliser des productions indispensables pour permettre la transition. Voilà. Dernier point, parce qu'il ne faut pas être trop long. On ne l'a pas dit, mais il y a beaucoup de gens qui font de l'écologie sans le savoir, par obligation. Et ces gens-là, faut aussi leur envoyer le signal que c'est super, que c'est bien. Voilà. Et puis, plusieurs personnes ont dit qu'il y a une forte contestation des solutions écologiques. Et moi, ce n'est pas mon vécu. C'est en partie vrai, bien sûr. Mais mon vécu, c'est qu'il y a une forte adhésion à ces solutions si ce n'est pas présenté et porté par des écolos. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient associés à la prise de la décision pour qu'ils aient l'impression que c'est eux qui l'ont prise. Comme votre médecin le fait. Quand vous mangez mal et que vous avez du diabète ou quand vous avez... Voilà, exactement. Bon, je suis médecin, donc je suis toujours tentée de prendre des exemples dans ce champ-là. Mais je trouve que c'est pas si mauvais.
Merci beaucoup. Clara.
Oui, moi, je vais juste revenir rapidement sur cette question du niveau de diplôme, de l'éducation, etc. Il y a quelques mois, on a échangé au réseau Action Climat avec des sociologues, des chercheurs, etc., pour essayer de mieux comprendre ce lien entre écologie, classe populaire, relations à l'extrême droite et les liens entre ces trois enjeux-là. Et en fait, c'était l'été dernier et c'était au moment où était en discussion, on a l'impression que ça remonte à il y a tellement longtemps maintenant, mais... la discussion autour des classes de niveau dans l'éducation nationale, donc mettre en place des groupes de niveau dans les classes. Donc une idée qui était débattue à ce moment-là, et en fait, donc nous on parlait écologie, on ne parlait pas spécialement de cette question-là, et le sociologue en face de nous a dit, mais en fait, le premier levier là, tout de suite, pour refaire du lien... lutter contre l'extrême droite et refaire du lien autour de la transition écologique, c'est de lutter contre les classes de niveau. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tout de suite, dès le début, on crée une société qui va à plusieurs vitesses, dont certains, effectivement, in fine, accéderont à un niveau de diplôme inférieur, parce qu'on crée toutes les conditions pour ça. Des personnes qui ensuite seront plus attirées par voter pour l'extrême droite, et puis à l'inverse, des personnes qui ensuite seront très attirées par les propos autour de l'écologie. Donc voilà, je trouve que cet exemple-là est super super intéressant. Et au-delà de ça, en fait, sur l'école, l'éducation, etc. Pour moi, l'école public, c'est un super démonstrateur d'écologie très concrète, quand bien même on ne le prend pas du tout de cette manière-là. Il y a bien sûr toutes les questions d'éducation à l'environnement, etc., mais en fait, on peut le prendre par plein de bouts. On peut parler des cours qu'on végétalise, les cours jardin, qui donnent un certain accès à la nature et qui donnent du confort pendant les récréations. En intérieur, on peut aussi parler de confort quand on rénove de manière... Enfin, on fait la rénovation énergétique des bâtiments pour le confort de l'éducation de nos enfants. Pour amener et pour récupérer son enfant à l'école, il y a aussi le choix qui a été fait dans certaines villes de mettre en place des rues aux écoles, donc où l'accès des véhicules motorisés sont limités, en tout cas en certains moments, notamment les moments de dépôt et de récupération des enfants. Il y a les questions de qualité de l'air. Enfin bref, on peut parler plein de choses. Sécurité routière, qualité de l'air, confort de l'éducation, et en fait tout ça ce sont des petites parties d'une politique qui dans son ensemble est en fait une politique de transition écologique autour de l'école primaire. Voilà, un moyen de refaire du lien, disons, avec du très concret. Et juste pour terminer, on a l'impression qu'on est dans un contexte avec beaucoup de marasme et tout, à juste titre. Juste pour rappeler, la prochaine élection, a priori, ce sont les élections municipales quand même. Voilà, peut-être. Mais en tout cas, pour moi, c'est aussi un super... On a beaucoup parlé territoire, attachement à territoire, pouvoir d'agir sur les territoires. Et pour moi, c'est aussi un super levier pour refaire le lien perdu du triptyque transition écologique, ce que ça peut changer pour ma vie quotidienne, et l'action politique très locale, de proximité, qui permet cette transformation-là.
Merci. Merci, Clara. Pardon, Marion. Pardon, oula, ça va mal. Bon, ça fatigue.
Oui, alors je rejoins beaucoup ce qu'a dit Dominique aussi sur le fait qu'il faut une diversité de leviers, en fait. On n'aura pas un levier qui fonctionne mieux qu'un autre. Et en particulier sur cette question de est-ce qu'on choisit le coercitif ou l'incitatif, enfin... À mon avis, il faut évidemment les deux. On a besoin de normes, on a besoin de régulations. Et plus encore qu'une diversité de normes, à mon avis, il faut une différenciation de normes. Parce qu'en fait, encore une fois, nous n'avons pas tous les mêmes contraintes, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Donc de la même manière, il faut prévoir des trajectoires de transition qui soient différenciées. On ne peut pas demander la même chose à tous les groupes sociaux. Et il ne faut pas seulement prendre en compte d'ailleurs les contraintes, mais aussi les aspirations. Tout le monde ne se représente pas le même parcours de vie, le même idéal de vie, etc. Et c'est évidemment un ancrage social très fort. Donc ce sont des choses à prendre en considération pour concevoir des mesures. Il y a aussi des études qui ont montré qu'agir sur la justice symbolique, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une étude de sociologue qui a été faite qui montrait que si on proposait une mesure du type la régulation de la vitesse sur l'autoroute, ça recevait assez peu de soutien. En revanche, si on propose la régulation de la vitesse sur l'autoroute et en parallèle l'interdiction des jets privés, alors là, la mesure reçoit beaucoup plus de soutien. Donc en fait, il faut jouer sur ces espèces de compensations symboliques pour qu'on ait le sentiment que tout le monde est mis à contribution, en fonction de ses moyens. Et deuxième chose sur laquelle je voulais réagir, c'est sur la science. Je pense effectivement que dans le mouvement écolo, on a peut-être fait une erreur stratégique en pensant que l'information suffirait à créer le changement. Or, on voit bien que c'est pas vraiment ce qui se passe, et j'en veux pour preuve qu'il y a un certain nombre de sondages, par exemple, qui montrent que les Françaises et les Français se déclarent, dans une large majorité, prêts à diminuer leur consommation de viande, par exemple, pour des raisons environnementales. Dans les faits, on voit bien que la consommation ne baisse pas, voire elle augmente dans certains secteurs comme la volaille. Et donc, en fait, il faut bien avoir en tête que l'expertise ne suffit pas à changer les comportements, parce que les comportements sont beaucoup conditionnés par les modes de vie, par les environnements, et qu'il faut avant tout changer les environnements pour espérer changer les modes de vie à l'intérieur. Et ces modes de vie sont d'autant moins flexibles quand on est déjà très contraint. Donc c'est particulièrement le cas des classes populaires. Et dernière chose à ce sujet, Je pense que c'est peut-être pas pour rien qu'il y a autant d'électeurs de Marine Le Pen qui sont issus du milieu socio-professionnel des agriculteurs. Je pense que l'expertise a fait en fait beaucoup de mal au milieu des agriculteurs parce que pendant un moment, on leur a expliqué que l'expertise voulait qu'on fasse des agrandissements, que ce serait plus rentable, les agriculteurs se sont endettés. Ils ont été privés aussi de leur savoir paysan pour adopter des normes soi-disant issues des scientifiques, etc. Donc je pense que historiquement, il y a un rapport conflictuel à l'expertise chez la classe agricole et c'est tout à fait logique au vu de notre histoire et de notre modèle agricole. Donc l'expertise, encore une fois, va y avoir un lien de confiance à reconstruire aussi chez un certain nombre de classes sociales.
Merci. Alors, deux remarques pour conclure. La première sur la science. Je trouve que c'est une remarque qui nous concerne tous à peu près directement. Moi, je suis très frappé. Autant je pense qu'il est évidemment indispensable de prendre en compte les faits scientifiques, les analyses scientifiques. Mais je suis quand même frappé, et encore une fois ça nous concerne directement, de l'usage qui est parfois fait, qui manque beaucoup de clarté sur ce qu'on en fait. Et je pense que c'est très mauvais, je le dis très, tel que je le pense, mais je serais peut-être contredit dans les discussions ultérieures dans les couloirs, je pense que c'est très mauvais de donner l'impression que l'injonction scientifique oblige à faire quelque chose. Et je l'entends quand même souvent. On est en démocratie. Il est important d'embarquer les citoyens, que les citoyens soient partie prenante des décisions. À partir du moment où on dit, où on laisse entendre, et je l'ai quand même entendu souvent, la science dit ça, donc il faut suivre ça. Là, je pense qu'on est, on est pas bon, on n'est pas, et on n'arrive pas, en disant ça, à construire un minimum d'accord des différentes personnes. Donc je voulais appeler votre attention là-dessus parce que je pense que c'est assez important. Et que, pour le coup, c'est une dérive qui nous concerne, qui peut nous concerner tous, plus ou moins, les uns et les autres. Parce que, évidemment, il est clair que la science démontre qu'il faut faire de l'écologie, il faut agir sur le climat. Donc, on a tendance à dire, ben voilà, puisque c'est ça, il faut faire ça. Bon, et faisons très attention à la façon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout utiliser la science. Il faut que la science montre le champ des possibles et qu'ensuite, il puisse y avoir une discussion démocratique pour savoir comment on fait. La deuxième remarque en forme de conclusion, je me disais en vous écoutant, moi j'ai trouvé d'abord cette réunion passionnante, et je me suis dit, mais combien d'interventions riches, intéressantes, sur l'analyse de la situation? Et je me disais, mais est-ce qu'on a beaucoup d'occasions de faire ça? Mais on n'en a pas, ou pratiquement pas. Pourtant, moi, je participe à différents colloques, etc. On n'a pratiquement pas d'occasion. Donc, d'abord, je voulais remercier, évidemment, Cluny, les organisateurs, etc., d'organiser ça. Mais c'est quand même assez frappant de voir que ce type de réunion, où on essaye de poser les problèmes, où chacun... Ce type de réunion est si peu fréquente, parce que beaucoup de choses sont cloisonnées dans les partis politiques, y compris dans les think tanks, y compris dans beaucoup... Et qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions. Donc, si on pouvait se dire... Créons ce type d'occasion et développons ce type d'occasion. Il peut y avoir des échanges, une délibération collective. C'est un peu ce qu'on a fait cet après-midi, au moins sur l'analyse de la situation. Je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite. Voilà, je pense que vous pouvez applaudir les intervenants pour les remercier. Et on vous remercie bien sûr aussi de toutes vos interventions et de votre écoute. Merci à vous.